renforcez pas les cages, ne craignez pas les orages, ni les torrents à franchir. Laissez les enfants gagner le droit d'étendre leurs ailes dans la lumière nouvelle d'une vie à inventer. Laissez-les. Ils vont s'envoler ensemble, un même ciel les rassemble, ils ont des sommets à gravir. Laissez les enfants grandir avant qu'ils nous ressemblent. Laissez-les.
Bonjour. Des cailloux dans l'engrenage, l'enfance poil à gratter. Nous sommes le 19 novembre 2025 et nous avons le plaisir d'inviter Tom de son livre, pour son livre En quête d'un grand peut-être. Tom et Nathan Lévesque, qui sont les deux auteurs, mais nous n'en avons qu'un. C'est le deuxième tome du guide de la littérature ado. Nous sommes le 22 novembre. Nous sommes le 19 novembre, je dis une bêtise. Et ce sont des cailloux dans l'engrenage, l'enfance, poil à gratter. C'est quel numéro nous, ouh là là! C'est le 181e épisode numéro, comme vous voulez. Ça fait longtemps déjà. Bonjour Tom.
Bonjour.
Eh bien, j'ai un enfant aussi à côté de moi qui me fait la technique.
Bonjour.
Bonjour. En quête d'un grand peut-être. Tome 2, a-t-on encore besoin de la littérature ado? Moi, il y a longtemps que j'ai répondu oui à cette question, mais c'est une question, c'est aux auditeuristes de le décider, d'y réfléchir. Et il y a aussi la nouvelle carte des 100 incontournables de la littérature ado. 100 CENT, hein, pas 100 SANS, bien sûr. Donc, c'est en librairie le 26 novembre, donc dans pas longtemps. Et il y a eu d'abord, avant le deuxième tome, un premier tome qui a eu beaucoup de succès. C'était inattendu. Bientôt, ça va être le salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil. Je suppose qu'il va être en stand. Et cette suite, Tom, était attendue. Est-ce que tu t'en doutais à ce point-là de faire un deuxième tome? Parce que sur le premier tome, il n'y a pas écrit tome 1.
Non, en effet, le premier tome n'était pas prévu. Quand on a sorti En quête d'un grand peut-être, guide de littérature ado, l'ambition était même de rester juste à ce livre et d'en faire un tome unique et aussi le seul livre de cette maison d'édition qu'on avait créée pour l'occasion. Et en effet, comme tu l'as dit, le livre a eu beaucoup de succès et on a arpenté les routes pendant 5 ans à la rencontre du public, notamment des professionnels du livre, des bibliothécaires, des enseignants, mais aussi des ados, des parents. Et on nous a posé plein de questions. Il y a plein de nouvelles questions qui se sont posées aussi dans ces 5 dernières années. Et on s'est dit au début, on va peut-être faire une mise à jour du premier, mais très vite, il s'est avéré qu'on avait largement assez de contenu et encore, on aurait pu encore avoir d'autres questions pour en faire un livre entier. Donc, on a décidé de faire ce deuxième livre qu'on a en effet appelé de manière un peu provocatrice « A-t-on encore besoin de la littérature ado ?» Mais voilà, il y a plein de choses qu'on peut dire sur cette question dont on va sans doute parler là.
Ah bah, évidemment. Alors, c'est un succès qui est à la fois critique et commercial. Ça, ce n'est pas toujours le cas. Et le premier tome, 10 000 exemplaires vendus. C'est quand même pas mal pour quelqu'un qui n'a pas de distributeur.
Tout à fait, 10 000 exemplaires vendus. On pensait en vendre 1 500. Et en fait, on les a vendus en un mois. Après, voilà, on n'a fait que de réimprimer. On en a encore pas mal en stock. Et surtout beaucoup qui sont maintenant entrés vraiment dans le fond des librairies. Donc ça, c'est chouette aussi parce que les libraires s'en servent et pour eux comme un outil et comme un outil qu'ils peuvent utiliser auprès des clients, notamment quand ils ne sont pas persuadés que la littérature ado est une vraie littérature.
Eh bien, en tout cas, on a nos deux libraires préférés, c'est-à-dire Publico, 145 rue Amelot, au métro Oberkampf, Fille du Calvaire ou République, l'a commandé, ainsi que la librairie Quilombo, au métro, je ne sais même plus quel métro, rue des Boulets, c'est rue Voltaire, c'est en haut de la rue Voltaire, eh bien, qui l'a commandé aussi. Alors, les autres librairies, je ne sais pas, mais mes deux librairies préférées ont commandé le livre qui va arriver donc dans pas longtemps, dans une semaine.
Il arrive dans une semaine. Il y a déjà beaucoup de libraires qui l'ont commandé pour l'avoir sur table dès le premier jour. Mais après, si il vous intéresse, vous pouvez toujours le commander auprès de n'importe quelle librairie. Et en effet, on sera au Salon du Livre de Montreuil la semaine prochaine. On a un stand pendant une semaine. Donc nous, on va dédicacer, mais il y a aussi tous les auteurs qui nous ont accompagnés sur ce livre, soit dans les parties plus théoriques, soit sur les 11 nouvelles qui seront là aussi pour dédicacer le livre.
Alors moi, je peux le répéter, le rappeler, je l'ai dit pour la première émission. C'était il y a 5 ans, notre première émission ensemble.
C'était après la sortie du premier, donc il y a 4 ans, je pense.
Le temps passe très, très vite.
Le temps passe vite.
Et c'est Cathy Itac, l'une des autrices du premier tome, qui m'avait dit « Florence, il faut absolument que tu les rencontres. Ils ont fait un livre formidable. » Et ben voilà, c'était
Alors,
vrai.
Cathy, elle avait pas écrit pour le premier, mais par contre on l'a cité largement parce qu'on adore ses romans, notamment D'entrée de fusain, moi c'est mon préféré.
Ah bah oui, moi aussi.
Mais oui, Cathy est une très très grande autrice et je vous invite à lire ses livres.
Mais elle a aussi écrit des livres pour enfants qui sont vraiment
elle est
très
un peu
bien,
sur
mais
toutes les tranches d'âge.
C'est pas notre sujet aujourd'hui, c'est la littérature ado et la littérature aussi pré-ado. Quand est-ce que commence l'adolescence, à partir de quand c'est votre critère, c'est votre public?
Alors, c'est une question difficile. Dans le premier tome, justement, on parlait de cette question des frontières de la littérature ado en disant qu'elles étaient floues, à la fois quand est-ce qu'on commence à en lire et quand est-ce qu'on arrête d'en lire ou pas. On situe généralement au moment, en effet, de la puberté et donc plus ou moins à l'entrée au collège. Mais en réalité, c'est tellement différent en fonction de chaque ado, enfant.
Exactement.
Par ailleurs, il y a aussi des enfants qui commencent très tôt à lire de la littérature ado. Il y en a à 8 ans, ils ont déjà lu tout Harry Potter. Donc forcément, c'est une question difficile. Si on met vraiment une balise, on peut dire 12-13 ans et à peu près le collège. Mais moi, je rencontre des enfants de 8 ans qui en lisent et à la fois, je rencontre des enfants ou des ados de 5e ou de 4e qui n'ont pas encore mis les pieds dedans.
Alors effectivement, à côté de moi, un enfant qui a commencé à lire Harry Potter à 6 ans et à 8 ans, il avait tout lu. Mais je sais que d'après les libraires, Harry Potter se lit beaucoup plus jeune que prévu en général.
Oui, parce que c'est un livre qui maintenant est tellement entré dans la culture populaire et aussi par les films, que souvent, il y en a beaucoup qui commencent par les films, ensuite ils lisent les livres. Et puis, c'est aussi beaucoup, maintenant on est dans la génération Harry Potter qui a grandi avec Harry Potter, maintenant ils sont devenus des parents. Et donc, il y en a aussi beaucoup qui font entrer leurs enfants dans la lecture en leur lisant à voix haute. Donc, c'est devenu un livre qui est plus large que ça aussi.
Je trouve que nous, c'est lui qui m'a fait découvrir Harry Potter et il m'a dit mais il faut absolument que tu le lises, et toute la famille ou presque, non pas toute la famille a lu Harry Potter mais presque, et c'est vrai que moi j'avoue que j'ai adoré.
Et le premier tome est finalement plus un livre en effet pré-ado parce que c'est un vrai c'est un univers magique, les héros ils ont encore 11 ans, donc en fait c'est pour ça aussi que c'est accessible assez tôt, et une fois finalement qu'on a mis le pied dans l'univers, qu'on s'est attaché au personnage, on peut aller très loin. Il y a des questions qu'on va peut-être comprendre plus tard si on le relit quand on est plus grand, et en même temps on a un autre regard aussi quand on est enfant, et c'est ça qui est chouette, c'est quand on le partage en famille ou alors quand on le lit plusieurs fois, on va pas toujours y trouver la même chose au même âge, et
exactement.
Il va y avoir plein de dialogues super intéressant.
Je ne pensais pas commencer par Harry Potter, mais c'est un phénomène qui est quasiment mondial. Est-ce qu'il y a des pays, des civilisations qui ont échappé à ce phénomène Harry Potter?
Alors,
est-ce qu'en Chine, au Japon, en Afrique, au Groenland, est-ce qu'ils lisent Harry Potter là, je te pose une question.
Je pense que c'est... Pas, mais... À mon avis, c'est diffusé, alors j'ai pas de chiffres, mais dans tous les pays du monde. C'est traduit aussi dans beaucoup de langues, même des langues mortes, comme le latin. C'est traduit dans toutes les langues. Je pense que personne n'a échappé à Harry Potter. Oui. S'il y a bien un phénomène aujourd'hui en littérature, une saga en littérature ado que... Si ce n'est tout le monde a lu, tout le monde connaît, c'est Harry Potter. Oui.
Et est-ce que c'est une saga qui a lancé la littérature ado ou est-ce qu'elle existait déjà avant ?
Alors, elle a complètement bouleversé et participé à développer de manière vraiment exponentielle la littérature ado. Ce qu'elle a beaucoup changé, c'est notamment l'arrivée des littératures de l'imaginaire. Avant, la littérature ado, en tout cas en France, c'était beaucoup une littérature du réel, le roman miroir, c'est-à-dire le roman où on va s'identifier dans ce livre-là. Donc avec des collections notamment chez l'École des loisirs, Medium, avec des livres comme ceux de Judy Blume ou de Robert Cormier. Et Harry Potter arrive et on se rend compte que les ados peuvent lire de l'imaginaire, qu'ils adorent ça. C'est aussi le début des grosses séries. On se rend compte que les ados peuvent lire des livres énormes et des très longues séries. Et c'est aussi un développement de la traduction, parce qu'avant, on avait quand même des traductions, notamment de l'américain, parce que les Américains, ils ont un petit temps d'avance sur nous, sur la littérature ado. Mais c'était beaucoup d'auteurs français. Et à partir de là, on s'est mis à traduire, notamment de l'anglo-saxon, beaucoup plus. Donc ça a complètement révolutionné et du coup ça a ouvert aussi des rayons dédiés dans les librairies, les bibliothèques, ça a créé des vocations d'auteurs, aujourd'hui des auteurs qui se revendiquent clairement de Harry Potter, Julia Thévenot, Christophe Maury, des auteurs comme ça. Donc oui, ça a complètement bouleversé le... Sans Harry Potter, on n'aurait pas autant une littérature ado aussi vaste et aussi lue, on va dire.
Alors, on va commencer par mettre un premier titre musical. Je suppose que tu connais Agnès Bihl.
Non, j'avoue ne pas connaître.
Ah, tu connais pas. Alors la numéro 7, c'est le deuxième, oui. Vas-y, tu peux y aller.
Le cœur entre deux âges, mais plus près de l'un que de l'autre. Le corps entre deux chaises, mal à l'aise mon vôtre. Tu portes le deuil du monde, en berne sur la frime. Mais t'as la bouille toute ronde, 13 ans, très enfantine. Tu te teins d'idées noires, sous tes boucles d'orgueil. Tu te mets du rouge à lèvres et puis le doigt dans l'œil. 13 ans, 13 ans, lady de 13 ans. On t'arrache un sourire comme... On t'arrache une dent entre la trousse d'école et celle à maquillage. 13 ans, 13 ans chantage, tu te vautres en chocolat, mais toujours au régime. Madame aux camélias, 13 ans, 13 androgyne. Et puis comme t'as pas de sein, du coup tu manges plus rien. L'éternel féminin, c'est pas fait pour les chiens. Et tu fais plus grand chose à part bien sûr la gueule. Ce que vivent les roses, tu t'en fous, t'es toute seule. En gros pull à la mer et d'un couvent pas souhait pour les amis de ton père, 13 ans, 13 ans chanté. T'as des tongs en hiver et ça fait chier ta mère. 13 ans, 13 ans colère. Et puis il y a l'amour un peu passionnément entre la cour d'école et puis la cour des grands. 13 ans, 13 ans pressé, t'es tombé sur les genoux du seul qui te plaisait. Bref, celui qui s'en fout, c'est dur d'aimer quelqu'un quand on peut pas le sentir. Connaître trois mots d'amour, personne à qui les dire. Mais quand on aime un mec, et même si c'est un con, on pleure au nom du Saint-Esprit de contradiction. Et tu fumes la télé en regardant la moquette. 13 ans, 13 ans douillette, tu hurles avec les loups, c'est mieux qu'avec les chiens. À présent qu'à 13 ans, tu rêves parti trop loin. 13 ans, 13 ans angoissé par ton père et ta mort. 13 ans, 13 ans gueulé, c'est l'âge du plus fort. Et tu mords tes blessures, tu cries 13 ans rageuse. Nos futurs, c'est plus sûr. 13 ans, 13 ans merdeuse, les nerfs à fleur de peau. 13 ans, 13 ans tété, t'as l'air d'une fleur en peau. 13 ans, 13 ans poté, madame de 13 ans, c'est vrai qu'on ne s'aimait pas. 13 ans, 13 ans brouillé, 13 ans, 13 ans terré, je me souviens de toi, 13 ans, 13 ans volé.
merveilleuse Agnès Bill dans Des cailloux dans l'engrenage, l'enfance poil à gratter sur Radio Libertaire, bien entendu, 89.4. La radio sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste, aujourd'hui consacrée à l'adolescence, à la littérature adolescente et préadolescente. Et 13 ans d'Agnès Bill, c'est exactement ça. Elle va être à Publico pour célébrer les 5 ans de la mort de Anne Sylvestre, que nous affectionnons particulièrement dans cette émission depuis le premier numéro. Anne Sylvestre est notre indicatif. Eh bien, nous parlions d'Harry Potter. Alors, on va continuer à parler d'Harry Potter, l'imaginaire. C'est typiquement la littérature qui réunit tous les âges. Donc, on a vu l'enfance qui lit correctement bien, parce que c'est quand même gros, il faut bien lire pour aborder Harry Potter. Les adolescents, les parents, les grands-parents, enfin tout le monde s'est plongé dans Harry Potter. On a bien vu que c'est un phénomène énorme qui a bouleversé les choses. Nous allons parler de l'autrice. Et il y a des...
Le sujet de J.K. Rowling.
Eh bien oui, moi j'ai écrit, tu l'as marqué dans le livre, oui. Je te remercie de l'avoir, d'en avoir parlé, que Hermione était une militante syndicale. Bon, oui. j'ai peut-être exagéré, j'ai voulu faire un titre un peu provocateur, mais c'est vrai que c'est grâce à elle que les elfes de maison ont été rendus visibles, qui n'ont pas été esclavagisés, et c'est grâce à elle que, en fait, Harry Potter a survécu aux gros méchants qui voulait le tuer. Eh bien, moi, j'ai apprécié ça aussi dans Harry Potter. Alors, qui est cette autrice qui est très controversée pour des raisons très justifiées?
Oui. J.K. Rowling, donc l'autrice de Harry Potter. Déjà, il y a toute une histoire autour d'elle, puisque c'est vraiment l'histoire de l'autrice qui a galéré à se faire publier, qui a envoyé 40 fois son manuscrit, qui vivait dans l'extrême pauvreté jusqu'à arriver avec Harry Potter, que tout d'un coup un éditeur tente le coup, et aujourd'hui c'est l'histoire qu'on lui connaît, et c'est aujourd'hui l'une des britanniques, mais voire même peut-être l'une des personnes les plus riches au monde, avec tout l'empire aujourd'hui financier que représente Harry Potter, autant les livres que les adaptations, que les films qui ont été faits ensuite, le jeu vidéo, bientôt la série. Donc c'est une autrice qui a beaucoup, beaucoup de pouvoir et financier et une parole. Elle a un compte Twitter depuis des années. Et aujourd'hui, elle tient depuis, alors j'ai plus la date en tête, mais depuis quelques années, des propos transphobes, donc à l'encontre des personnes transgenres, notamment des femmes transgenres qu'elle considère ne pas être de vraies femmes. Au début, c'était beaucoup de prises de parole, à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias, dans des livres, ça s'est amplifié. Et aujourd'hui, c'est aussi elle fait ça aussi avec l'argent, à la fois en finançant des associations qui se disent féministes, mais qui sont en fait TERF. Donc TERF, c'est Trans Exclusionary Radical Féministe.
C'est n'importe quoi.
Donc c'est un mouvement radical féministe, ouais, qui considère que les personnes trans ne sont pas des femmes. Et elle a créé, il y a très récemment, je ne sais plus, en avril ou en mai, parce que j'étais en train de finir l'article et que déjà l'article n'était plus à jour, donc je l'ai remis à jour, parce qu'elle a créé une association spécifiquement pour ce combat-là qu'elle mène maintenant. On peut vraiment parler de combat aujourd'hui. Et donc ça pose plein de questions, parce que Harry Potter, on a parlé de Hermione en militante syndicale, mais il y a tellement de lecteurs qu'il y a autant de lectures possibles. C'est pour ça qu'on a cité celle-ci, mais il y a des lecteurs qui voient dans le personnage de Charlie Weasley, le grand frère de Ron, un personnage qui représente la sexualité. Il y en a qui ont vu qui sont aussi révélés grâce à Harry Potter, qui justement même ont fait leur coming out LGBT, non gay ou trans, ou lesbiens par Harry Potter.
Ça veut dire, attends, leur coming out, ça veut dire qu'ils ont...
Déjà, le coming in, on pourrait dire, c'est-à-dire qu'ils se révèlent à eux-mêmes qu'on n'est pas hétérosexuel ou qu'on n'est pas une personne cisgenre, c'est-à-dire qu'on... Par exemple, si je suis un garçon, moi, je suis une personne cisgenre parce que mon sexe attribué à la naissance était masculin. Et je me reconnais dans ce genre-là. Une personne transgenre va être une personne qui, par exemple, est assignée fille à la naissance et en fait va se rendre compte qu'elle est un garçon. Et le coming out, c'est quand on le dit aux autres, quand on va l'annoncer, je sais pas, à ses parents, à ses amis. Et enfin bref, c'est une communauté qui est très vivante et qui, au contraire, a vu dans l'œuvre de J.K. Rowling et dans Harry Potter des valeurs dans lesquelles ils ou elles se sont reconnus, des valeurs de communauté soudée, des valeurs de... de combattre, on peut voir chez Voldemort une figure fasciste.
Tout à fait, complètement.
Donc il y a tout un ensemble de valeurs qui est plutôt partagé par une grosse partie de la communauté, évidemment pas tous. Et aujourd'hui, quand on se retrouve face au personnage de... Enfin, la personne de J.K. Rowling et qu'on n'est plus du tout en accord entre nous, ce qu'on a vu dans Harry Potter, comment on a grandi avec cette œuvre, et la personne qui va aller parfois à l'encontre de ses propres lecteurs et lectrices quand elle est transphobe, il y a une espèce de dissociation cognitive entre ce qu'on aime et la personne qui est derrière. Donc la grande question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça ?
C'est une question que je n'ai toujours pas résolue. La différence, la prise en compte de l'œuvre ou de l'auteur, l'auteurice, c'est est-ce qu'on doit jeter l'œuvre d'un ou une auteurice qui... facho, transphobe, raciste, tout ce que tu veux. Ou est-ce qu'on doit continuer à aimer son œuvre qui est quand même... si elle est mondialement reconnue, c'est quand même... Il y en a qui n'aiment pas.
Oui, il y en a toujours qui
n'aiment
pas.
Il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'avoue que j'ai été happée du début jusqu'à la fin. J'ai lu... c'est 6 tomes, c'est ça ?
7.
7 tomes, j'ai lu 7 tomes d'affilée, tellement j'étais subjuguée, mais emportée. et c'était pas pour mon âge officiellement. Eh bien, quoi faire de cette dissociation ? Comment vivre avec ça ?
Moi, je pense que la question qui... C'est pour ça que je parlais du pouvoir financier. C'est que la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est que c'est 100% clair que l'argent qu'on donne aujourd'hui à J.K. Rowling, donc quand on achète un livre, un produit dérivé, quand on va au cinéma pour voir un nouveau film, quand on s'abonne à la plateforme HBO pour regarder la série, on sait que cet argent-là, à un moment, va servir pour ce combat-là contre les personnes transphobes. Il y a autre chose à côté, c'est l'amour qu'on porte à cette œuvre, des fanarts qu'on peut faire, il y en a qui faisaient des matchs de Quidditch dans la vraie vie, ça c'est quelque chose qui peut-être qu'on peut continuer, au contraire se réemparer de cette œuvre en y mettant les valeurs qu'on y a lues, parce que c'est la question quand on publie un livre, je pense que le livre n'appartient plus à l'auteur, il appartient aux lecteurs et aux lectrices. Donc au contraire, faire de cette œuvre-là celle avec les valeurs qui sont les nôtres. Moi, ma position aujourd'hui, c'est je donnerai plus d'argent à J.K. Rowling. Donc, ça veut dire en effet que la série, je vais pas la regarder. Que avant, j'avais été au studio Harry Potter. Aujourd'hui, j'irai plus. Que je vais plus acheter un livre. Des libraires aujourd'hui prennent cette position-là de on ne vend plus Harry Potter à la librairie.
Oui.
C'est forcément une grosse réflexion en tant que libraire, parce que c'est quand même une manne financière aussi pour les libraires, mais c'est un positionnement qu'on peut prendre. Il y a tellement de livres aujourd'hui qu'on peut proposer d'autres choses aux lecteurs si on a envie de les lire. Là, j'ai discuté avec notre maquettiste qui a mis en page le livre et qui est justement avec sa fille en train de les lire et qui a dit moi maintenant je vais les acheter d'occasion, comme ça on sait que l'argent ne lui revient plus. C'est des choses comme ça auxquelles on peut réfléchir. De toute façon, moi je vais pas dire à qui que ce soit de faire quoi que ce soit, chacun est libre, mais je pense que c'est important de se poser cette question.
Les acheter d'occasion, les prendre en bibliothèque, se les prêter, mais aussi moi j'ai du mal à empêcher quelqu'un d'en acheter un tome s'il n'y a personne qui en a autour de soi, mais avec un avertissement, est-ce que les libraires sont habilités à mettre un avertissement, si vous lisez ça, c'est un bon roman, mais voilà qui est la personne qui l'a écrite, voilà qu'elle a viré à l'extrême droite. Je vous laisserai prendre votre propre opinion, mais voilà ce qui s'est passé, vous achetez ou pas le livre.
On avait interrogé une libraire, justement, Jeanne Beauchamp, qui est libraire à la librairie Combo à Roubaix, et qui nous expliquait que donc elle les avait plus en magasin, mais qu'elle pouvait quand même les commander si des gens lui réclamaient, mais que c'était une manière pour elle de plus les avoir en magasin, de pouvoir entamer cette discussion, parce que sinon, quelqu'un peut aller dans une librairie, passer à la caisse, et puis finalement ne pas vraiment échanger
tout
avec le libraire.
Ouais.
En faisant ça, ça lui permet de finalement... on va lui dire, mais pourquoi vous ne les avez pas ? Elle va expliquer pourquoi elle n'a pas les livres en magasin, qu'elle peut les commander, mais qu'elle peut aussi... pourquoi elle ne les a pas, donc pour en effet J.K. Rowling, mais qu'elle peut les commander, mais qu'elle peut aussi proposer autre chose, et entamer un dialogue à ce moment-là. Mettre un avertissement autre que par ce dialogue-là, c'est ça la différence, c'est qu'il y a des livres qui vont être dans leurs propos, transphobes ou racistes ou je ne sais quoi, mais là c'est l'autrice, et finalement dans le livre on ne trouve pas du tout
mais bien sûr,
ça.
Moi,
et au contraire des
fois
on lui fait une autre lecture donc on a parlé de l'Hermione militante syndicale, mais on peut en faire plein de lectures, donc c'est difficile de mettre un avertissement à partir du moment où c'est l'auteur. Mais pour moi c'est comme tous les débats qu'il y a eu autour de personnalités comme Polanski ou voilà, J.K. Rowling aujourd'hui, c'est on peut toujours aimer les œuvres, évidemment, elles sont pas forcément imbibées de ce que la personne à côté fait. Par contre, c'est qui on choisit de mettre en avant, qui on choisit de financer, à qui on donne un prix, à qui on récompense dans des grandes cérémonies. On peut aussi aller acheter un Harry Potter et puis au pire donner l'équivalent à une association qui lutte pour les droits LGBT. Enfin, il y a plein de... Mais je pense qu'en tant que libraire ou en tant que... Voilà, nous, on a mis Harry Potter dans ce livre, seulement dans ce chapitre, en se disant, sur les 240 pages du livre, mettons en avant d'autres livres, justement, qui vont être à la fois proches de ce que nous, on a envie de défendre et proches d'une littérature qui me semble aujourd'hui plus proche du réel et de ce dont on a besoin, notamment pour un lectorat ado.
Alors, ça fait partie de la littérature de l'imaginaire.
Oui.
Il y a plusieurs sortes de littérature. Tu peux résumer
Derrière la littérature de l'imaginaire, je mets en gros tout ce qui ne va pas être dans...
Oh, mince. Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes sur Radio Libertaire, des cailloux dans l'engrenage.
C'est l'eau qui s'est déversée sur le sol.
Oh mince.
C'est rien de grave. Littérature de l'imaginaire, je mets tout ce qui n'est pas du réel. Donc ça va être la science-fiction, la dystopie, comme Hunger Games par exemple. Le fantastique ou la fantasy, comme Harry Potter ou... La quête des Whelan de Pierre Bottero, ça va être des utopies, des uchronies, enfin bref, tout plein de littératures qui vont être soit dans le futur, soit dans un monde qu'on a inventé.
S'il y a des jeunes, des très jeunes qui nous écoutent, la dystopie, l'uchronie, est-ce que tu peux
donc la dystopie, alors il y a utopie et dystopie. Donc la dystopie, l'exemple en effet le plus connu aujourd'hui en littérature ado, c'est Hunger Games. Donc c'est quand on imagine une société dans le futur qui est devenue terrible, enfin noire, sombre, où on va pousser à fond les curseurs aujourd'hui des défaillances de notre société pour imaginer comment ça serait dans le futur, si c'est encore pire ou si on continue dans ce sens-là. L'utopie, c'est l'inverse, c'est imaginer un monde heureux, alors un peu parfait, dans lequel on s'imaginerait facilement vivre. Il y en a beaucoup moins des utopies, c'est plus difficile, je pense, d'écrire un monde 100% joyeux. L'uchronie, c'est quand on va imaginer que dans l'histoire, un événement n'est pas arrivé et qu'est-ce qui se passe ensuite. Par exemple, Hitler, mais c'est pas en littérature ado, qui imagine qu'en fait il est devenu, il a continué ses études d'art et il n'est pas devenu le dictateur qu'on a connu.
Je crois que j'ai entendu parler, mais je sais pas lui.
J'ai plus le nom du. Sinon, c'était Pierre Bordage qui avait écrit des uchronies en littérature ado. J'ai plus trop d'exemples comme ça, mais voilà, ça va être imaginé. Des fois, ça va être un détail, quelque chose qui ne s'est pas passé, et puis tout change derrière. Du coup, le monde, comment il se transforme, est-ce que du coup, par exemple, la révolution industrielle n'est pas arrivée, alors à quoi ressemble aujourd'hui le monde ? Enfin, c'est ça, l'uchronie. C'est assez passionnant.
Oui, tu peux donner des exemples. Damasio, par exemple, bon, c'est pas spécialement pour les...
Damasio, ça a plus être de la science-fiction, donc on se projette dans un futur lointain et on imagine le monde dans un futur lointain. En Uchronie, là, celui qui me vient, c'est en effet Pierre Bordage, et là, c'est une trilogie qui s'appelle, je crois, ne pas me tromper, Ceux qui sauront. Après, j'en ai d'autres mais en tête, mais pas en littérature ado. Mais déjà, Pierre Bordage, c'est une valeur sûre.
D'accord. Eh bien, nous allons mettre un autre titre. Tu veux encore Agnès Bille ? Allez, vas-y, encore Agnès Bille. Le numéro 2, tu peux y aller, sur Des cailloux dans l'engrenage, dans Radio Libertaire.
Chasse au trésor, pêche au cadeau, bougies soufflées, rideaux tirés, petite fille et gros gâteau, c'était la fête au temps passé. C'était au temps des ours en pluche, joli joyeux anniversaire, mais un an de plus pour la puce. Mais aujourd'hui, mais pourquoi faire? Maintenant qu'il est urgent d'attendre, je me souviens quand j'étais grande et j'ai pas le temps d'avoir 30 ans. 30 ans déjà, l'heure d'être sage. 30 ans pourtant, c'est pas très tard. Faut ranger sa mémoire en cage, ouvrir des portes de nulle part. Moi, si j'ai peur et pas la place, c'est que ça fait mal à mes souvenirs. Happy birthday, le temps qui passe. Moins on est petit, mais plus c'est pire. Un jour ou l'autre, faut être adulte, pas moi. Je prends ça pour une insulte et j'ai pas le temps. C'est vrai, c'est pas possible, et c'est beaucoup trop vieux pour moi. Hier, j'étais Billy the Kid, et maintenant, 30 ans déjà. À quoi ça sert vivre aux éclats, si c'est pour grandir à crédit? Tout ça pour vieillir de sang-froid. 30 ans déjà, j'ai rien compris, et je ne veux plus me laisser faire à coups de joyeux anniversaire. Et j'ai pas le temps d'avoir 30 ans. Pas drôle et pas grand chose. 30 ans passés, c'est pas assez pour vraiment voir le vide en rose. 30 ans, 30 ans, mais pourquoi faire? J'en avais 20, c'était pareil. Et v'là que demain s'appelle hier. 30 ans déjà, j'ai pas sommeil. D'après la pluie, v'là le bon temps. J'ai eu 30 ans, mais finalement, il était temps. C'est pas méchant. Il était temps.
Agnès Bille, Des cailloux dans l'engrenage, autour de En quête d'un grand peut-être, le tome 2. A-t-on encore besoin de la littérature ado? Avec l'un des deux auteurs, Tom Lévesque, son frère Nathan, qui n'est pas là, mais il nous aurait fallu, je sais pas deux heures, mais deux jours entiers ininterrompus pour parler de la richesse de ce livre. Qui, comme le tome 1, est vraiment extrêmement bien fait. Il est clair, il est complet, chaque rubrique... enfin, moi, j'ai adoré. À chaque fois que je l'ouvre, je découvre quelque chose de nouveau. Les réflexions sont vraiment très intéressantes. Et il y a des nouvelles. J'ai prévu d'en lire... Est-ce que tu as une préférence pour les nouvelles?
Moi, je vais te donner les trois. Après, moi, j'ai beaucoup aimé. Enfin, on pourrait peut-être lire celle de Nel Gallet, Face, je saute. Donc, dans ce livre, en fait, on l'avait déjà fait dans le premier. On voulait avoir 10 auteurs et autrices de littérature ado qui écrivent une nouvelle pour le livre. L'idée, c'était d'avoir, au milieu du contenu théorique, de la fiction. aussi pour pouvoir éprouver vraiment dans le texte cette littérature dont on parle sur 200 pages. Et dans ce deuxième livre, on s'est dit on va faire la même chose, on invite 10 autres auteurs. Et cette fois, on a fait un concours avec, en partenariat avec le magazine Phosphore, qui est un magazine pour ados, pour grands ados, avec l'idée de dénicher un jeune ou une jeune autrice qui vienne montrer que la littérature, cette littérature est toujours vivante et qu'on a des nouveaux talents tous les jours. Donc là, celle qui a gagné le concours, c'est Nel, qui a une vingtaine d'années et qui a écrit cette très belle nouvelle, donc je sais pas si...
Alors, ça fait pas partie des trois que...
Alors, lesquels...
Que j'ai préférées, mais c'est pas parce que j'en ai choisi
je
trois...
Je serais curieux d'entendre les celles que tu as préférées, alors.
C'est pas parce que j'en ai choisi trois, puis j'ai tous mes post-it qui se débinent, que... Alors, je vais chercher la première page de... Les nouvelles que j'ai préférées, Les gardiens de la mémoire.
Oui, de Lorraine Safou, bah justement de littérature de l'imaginaire, là, pour le coup.
Oui, et puis, alors, page 154, Le brûleur de Yasmine Djebel.
Oui, elle est super aussi.
J'ai beaucoup aimé, ça m'a fait penser à La peau de chagrin de Balzac.
Oui,
c'est quand même une sacrée référence.
Fantastique, vraiment... Dans les premières littératures fantastiques avec ce petit twist dans le réel peu d'horreur presque.
Ah oui, c'est angoissant. Ouais. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé également en lisant l'image par Esmé Planchon, j'ai trouvé que c'était impressionniste.
Oui, c'est génial. Ouais.
Voilà mes trois préférés, c'est pas pour ça que j'ai pas aimé les autres. Et celle que tu préfères, c'est laquelle?
Alors, c'est pas ma préférée, c'est que je citais Nel parce que là, je
n'ai
pas réussi à en choisir une. Moi, je les aime,
je les aime toutes
différemment. Je citais elle parce que c'est la petite nouvelle dans la bande de 11 auteurs, mais les trois autres sont super aussi. Moi, j'ai pas de...
Alors, est-ce que tu peux expliquer comment tu as construit avec ton frère ce livre?
Oui.
Qui est vraiment extrêmement clair, je ne le répéterai pas assez. C'est une somme, enfin, c'est un livre de base qu'on devrait avoir dans toutes les bibliothèques, dans tous les CDI, dans toutes les bibliothèques d'école, parce qu'au CM, on peut avoir ce livre au CM. Il y en a qui sont déjà ados au CM.
Oui, bah, le livre, on l'avait fait au début vraiment pour...
Le
plus gros public, ça va être les professionnels, parce que c'est un livre assez dense, mais on a rencontré aussi des ados plus ou moins jeunes qui, en effet, s'en emparaient parce que ça va être des fans de littérature ado. Globalement, c'est souvent des gros lecteurs qui s'en emparent, mais tu disais tout à l'heure, à chaque fois que j'ouvre le livre, je trouve quelque chose de nouveau, et c'est comme ça qu'on l'a imaginé d'abord. C'est un livre qu'on, si on veut, on peut lire d'une traite, mais qu'on peut aussi picorer, on peut trouver... lire les nouvelles, lire les portraits, parce qu'il y a plein de portraits de professionnels du livre, lire une partie qui nous intéresse plus qu'une autre. C'est vraiment un livre comme ça qu'on a pensé pour être parcouru, pour être lu dans un sens ou dans l'autre. Dans le premier, on avait 5 parties, comme dans celui-ci. La première, c'était vraiment une partie plus historique. La deuxième, c'était vraiment pour poser les définitions de la littérature ado. La troisième, c'était les incontournables. Donc une liste de 100 romans incontournables. La quatrième, c'était une partie plus sur les thématiques. On l'avait appelé littérature ado et société, c'est-à-dire comment la littérature ado va s'emparer de thématiques de société, plus ou moins politiques, souvent. Et la dernière, c'était sur les chemins de la littérature ado, donc c'est-à-dire sur comment on arrive au livre quand on est ado. Là, on a un peu repris ce même schéma. En bougeant un peu des choses, on a parfait une partie historique puisqu'on l'avait déjà fait dans le premier, mais on a refait une partie de définition de la littérature ado où l'idée là c'était de se dire d'aller encore plus loin dans la définition vraiment littéraire du genre. La littérature ado, nous on l'a définie comme la littérature de l'intensité, donc c'est-à-dire à l'adolescence on ressent tout de manière très intense, c'est aussi toutes les premières fois, les dernières fois aussi de l'enfance, et il y a une intensité à cet âge-là qu'on retrouve dans sa littérature. Et l'idée, c'était de se poser la question justement de comment on la retrouve. On a une deuxième partie où on a refait une liste d'incontournables. Donc, le premier livre, c'était sur une liste de 100 sur 20 ans. Donc là, on a fait une liste de 25 sur 5 ans de les 5 dernières années. 25 incontournables parus ces 5 dernières années. La troisième partie, c'est sur la question de la lecture. C'est une des plus grosses questions qui se posent en ce moment de est-ce que les jeunes vraiment ne lisent plus? Donc on essaie à la fois de débunker un petit peu cette idée
de
dérouiller, de répondre à cette idée en disant c'est pas vrai que les jeunes ne lisent plus. C'est vrai que la lecture a un peu baissé. Et donc de se poser la question d'abord pourquoi et ensuite de quelles sont les autres, les nouvelles façons de lire et aussi les autres genres que lisent les ados qui sont parfois pas de la littérature ado, d'où aussi le sous-titre du livre « A-t-on encore besoin de la littérature ado ?». Après, on a fait une quatrième partie plus politique. Donc là, on a parlé largement de J.K. Rowling juste avant, mais on se pose la question de la diversité, on se pose la question de comment les livres s'emparent des sujets d'actualité, par exemple, il y a quelques années sur l'inceste. On se pose des questions aussi de qu'est-ce qui menace la littérature ado. On en reparlera peut-être, mais notamment quand il y a eu le livre Bien trop petit de Manu Kos qui a été censuré par le ministre de l'Intérieur.
C'est pas chez Thierry Magnier.
Chez Thierry Magnier.
Mais oui, ça a été le précédent invité avant toi.
Bah, super, donc il a déjà dû bien en parler.
Alors, on n'a pas eu le temps d'en parler beaucoup de ça parce que on parlait surtout de la littérature pour les enfants. Mais je crois que je vais le réinviter pour la littérature ado parce qu'on n'a pas eu le temps.
On peut inviter aussi Charline Van Der Poort, qui est l'éditrice ado et qui dirige la collection L'Ardeur, dont fait partie ce livre qui avait été censuré, dont on fait un portrait d'ailleurs dans le livre. On s'est posé la question de l'écologie, de l'intelligence artificielle, bref, il y a plein d'autres sujets. Et la dernière partie, c'est encore une fois sur le rapport vraiment entre lecteur et littérature ado. Donc là, on a fait un gros morceau qu'on n'avait pas fait dans le premier sur l'école, sur le rapport entre littérature ado et éducation nationale, où il y avait plein de questions à se poser.
Ça me semble assez indispensable.
Et après, on a un article aussi sur comment TikTok a bouleversé la littérature ado. Et on parle aussi, enfin, il y a plein d'autres choses. Hein. Là, je cite un peu les gros articles. On a un dernier article aussi sur le phénomène des livres collecteurs qu'on voit fleurir partout sur les tables de librairie. Donc ces livres qui vont être plutôt reliés avec la peinture sur la tranche, cartonnés, enfin bref, tout ça qui pose plein de questions aussi. Voilà, mais bon, il y a plein d'autres sujets.
Oui,
pour résumer un peu de comment on a construit ce livre et les grandes parties.
Et pour reprendre ce par quoi tu viens de terminer, il y a l'apparence du livre qui semble très très important, justement, la tranche. Moi, je fais de la reliure, donc je suis attachée. Quelquefois, je peins mes tranches. Oui. C'est vrai que c'est important, l'aspect et le style des livres dans les littératures ados des librairies, c'est souvent un peu tape à l'œil. Il y a beaucoup de brillants, c'est des gros. Enfin, il y a un style pour les ados et que vous n'avez pas du tout, vous. Moi, j'aime pas toujours ce tape à l'œil. Enfin, franchement, j'aime même pas du tout. C'est peut-être un signe que j'ai dépassé l'adolescence depuis longtemps. Mais vous avez, dans Quête d'un grand peut-être, une très belle couverture qui se rapproche plus de la littérature jeunesse, des albums jeunesse. C'est très joli, votre couverture. Les deux tomes, d'ailleurs.
C'est une couverture de Tom Ogoma qui fait beaucoup de couverture de littérature ado, qui a fait aussi des albums jeunesse ou illustré des romans adultes. Et plein d'autres choses, mais il est super, oui. Bah, le style de... Enfin, le marketing, du coup, de la littérature ado, en effet, avec ce côté, parfois, comme tu disais, tape à l'œil, c'est aussi parce qu'on n'est pas forcément le public cible, justement, donc c'est pas forcément celui qui va nous plaire. Et après, nous, ce qu'on pose dans la question des collecteurs, c'est qu'en effet, l'objet livre est en effet revenu un peu au centre, notamment avec des réseaux sociaux comme TikTok, où on va vraiment montrer le livre, partager l'objet. Déjà, c'est la première approche du livre. Et c'est devenu une telle question qu'en effet, tous les livres aujourd'hui, ou presque en tout cas, surtout dans la littérature de l'imaginaire, sortent avec une version un peu collector, etc. Sauf que c'est pas fait comme tu disais, à la main, on va peindre soi-même sa tranche ou faire une reliure. C'est toute une industrie derrière qui pose beaucoup de questions à la fois sur le prix du livre derrière, sur les libraires, comment ils arrivent à gérer ce poids financier pour eux, des questions d'écologie aussi, parce que faire de tels livres, ça coûte beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau. Donc il y a plein de questions qui se posent là-dedans. À la fois, c'est vrai que c'est trop bien d'avoir un très beau livre, et à la fois, il y a plein de questions qui se posent qui sont pas aussi belles que la couverture. Et,
et avant qu'il sorte en poche, ça prend beaucoup de place, et nous, les lecteurs, les parents et les ados n'habitent pas des châteaux. Ils ont souvent des petits appartements. Et,
de la place et de l'argent, quoi. Parce qu'aujourd'hui,
de la place et de l'argent, bien sûr.
Au moins 20 euros, des fois monte à 30 euros, alors qu'en effet, avec 30 euros, on peut acheter au moins 3 livres de poche.
Exactement.
Et c'est un coût pour les libraires aussi, parce qu'eux, ils le payent avant de le vendre, donc c'est pareil. S'ils prennent le dernier livre de Christelle Dabos en collector, c'est un livre de moins qu'ils prennent à côté. Donc, ça pourrait. C'est. La place, à la limite, on trouve toujours une place. Il suffit. Moi, déjà, j'avais un petit appartement quand j'étais à Paris et il y avait des livres partout. Mais c'est plus la question de l'argent, oui.
Oui, il y a les deux, oui, oui. Sinon, vous avez aussi des réflexions. Oh, ben, on va peut-être passer à un autre titre musical, hein, parce qu'il y a les Whippers Circus. Adolescent, tu es un rebelle.
Whippers Circus, c'est dans la place. Adolescent, tu es un rebelle. Adolescent, tu es un rebelle. Adolescent, tu es un rebelle. Mais tu aimes bien ta maman. Ton papa
est naze.
Ton petit frère
est naze.
Ta grande sœur
est naze.
Justin Bieber
c'est naze.
Ton collège
c'est naze.
Tes profs
sont naze.
Et tu aimes bien ta maman.
Le prof de latin comprend rien à rien. On dirait sans cesse qu'il récite la messe. Il se croit malin, mais c'est un pantin. Quand il fait son altesse,
on lui montre nos fesses.
Et Kevin, c'est mon pote, il est allumé. C'est pas une lumière, il a disjoncté. En chimie, c'est chelou, là te fait péter. En jetant du sodium dans l'eau des WC.
Adolescent, tu es un rebelle. Adolescent, tu es un rebelle. Adolescent, tu es un rebelle.
Tu aimes bien ta maman.
Ton papa
est naze.
Ton petit frère
est naze.
Ta grande sœur
naze.
Justin Bieber
c'est naze.
Ton collège
c'est naze.
Tes profs
sont naze.
Mais tu aimes bien ta maman.
Et me dis mon bonjour, elle est tellement gentille. Que les filles du bahut sont toutes folles de lui. Mais tant pis, c'est foutu, elles ont pas de chance. Il est amoureux de sa prof de danse. Et ma vieille grand-mère,
c'est une vraie sorcière.
Elle me fait manger
de tarte douce. Adolescent, tu es un rebelle. Adolescent, tu es un rebelle. Adolescent, tu es un rebelle. Mais tu aimes bien ta maman. Ton papa
est naze.
Ton petit frère
est naze.
Ta grande sœur
naze.
Justin Bieber
c'est naze.
Ton collège
c'est naze.
Tes profs
sont naze.
Mais tu aimes bien ta maman. Dans ma classe, y'a Nico, il est tellement dark.
Il est trop fatal.
Et ses fringues sont même pas des habits de marque. Dans sa vie de gothique, c'est toujours carnaval. Et Lolo, c'est le faillot, il a un cœur d'or. La porte de Matlador,
c'est un vrai trésor.
Dès qu'il a le dos tourné, il se fait bombarder. On lui envoie des boulettes et des
crottes de nez.
Adolescent, tu es un rebelle. Adolescent, tu es un rebelle. Adolescent, tu es un rebelle. Mais tu aimes bien ta maman. Ton frère
est naze,
ton petit frère
est naze,
ta grande sœur
est naze,
Justin Bieber
c'est naze,
ton collège
est naze,
tes profs
sont naze,
et tu aimes bien ta maman.
Ouais.
Et ma meuf,
c'est Gisèle.
Elle est vraiment trop cool. Quand elle fait un selfie, on dirait
le cul d'une poule.
Elle aime pas mes copains, elle les trouve
crazy.
Elle me veut moi tout seul, mais ça c'est pas possible. Elle me quitte,
elle me casse,
elle revient.
On s'embrasse.
Je comprends rien à rien et c'est ça qui l'agace.
Elle me lol, elle me kiffe, elle me like, elle me tèche.
C'est pas toujours facile d'être une star au collège.
Adolescent, tu es un rebelle. Adolescent, tu es un rebelle. Adolescent, tu es un rebelle. Mais tu aimes bien ta maman. Ton father, ton petit frère, ta grande sœur, Justin Bieber,
c'est naze.
Ton collège,
c'est naze.
Tes profs
sont naze.
Mais tu aimes bien ta maman.
Et voilà, c'était Whipper Circus, adolescent, tu es un rebelle, car nous parlons de l'adolescence, période de la rébellion, justement. Et nous parlions aussi des bouleversements de la littérature ado. C'est un grand sujet du livre Enquête, en deux mots, hein, mais ça pourrait être en un seul mot, c'est d'un grand peut-être, le tome 2, avec Tom Lévesque, l'un des deux auteurs. A-t-on encore besoin de la littérature ado ? Sur Radio Libertaire, dans Des cailloux dans l'engrenage. Tom, dans ton livre que je recommande vivement et qui effectivement est plein de bons conseils de lecture, de nombreux livres que je ne connaissais pas, moi je t'avoue que je suis une fan de Timothée de Fombelle,
oui,
qui a écrit pour les enfants. J'ai un livre chez moi pour les enfants. Ça fait belle lurette, d'ailleurs. Et puis, il y a Toby Lolness, il y a Alma. C'est un peu pour tous les âges, puberté, oui, adolescence, adulte. J'adore son écriture, j'adore ses histoires. Ça m'emporte dans un imaginaire. Vraiment, c'est merveilleux sans être trop gentillet. Enfin, je veux dire, c'est... Bon, voilà, je fonctionne à fond la caisse dans Timothée de Fombelle et oui, je crois, oui, qu'il a du succès.
Oh oui, il a du succès et puis c'est en effet un auteur incontournable de la littérature jeunesse et ado. Bah, il avait écrit une nouvelle dans le premier,
oui,
dans notre premier tome. Une écriture en effet généreuse, merveilleuse. Oui, mais c'est un auteur à lire et à partager en famille, oui.
Et d'ailleurs, toi, tu as lu Toby Lolness et tu as commencé Alma. Oui, je parle à l'enfant qui est à côté de moi.
J'ai lu les deux tomes de Toby Lolness et j'ai lu le premier tome de Alma.
Et alors, qu'est-ce que tu en penses ? Tu as envie d'en parler ou je ne t'ai pas prévenu que j'allais te poser une question ? Il me fait la technique.
C'est très bien, mais... J'ai trouvé que, en fait, c'est difficile un peu à comprendre. L'écriture est belle, mais c'est un peu difficile à comprendre. Les mots sont compliqués. Et...
Alma ou Toby Lolness ?
Surtout, Toby Lolness, ça fait quand même longtemps que je l'ai lu.
Oui.
Je dirais plus Alma.
Ouais. En fait, il l'a lu, il était enfant, il n'est pas encore adolescent, hein. Il a 10 ans, c'est tout, et il a lu déjà.
Toby Lolness, oui, nous, on ne l'avait pas mis dans le premier livre parce qu'on considère que c'est plus de la jeunesse.
Oui, tout à fait.
Alma, en effet, il est plus complexe, notamment sur l'histoire et tout.
Oui, c'est vrai, c'est assez politique, justement. Votre, oui. Le mot politique n'est pas écrit dans vos... Ne parlez pas de la politique au sens politique, politicienne, évidemment. Vous avez en filigrane la politique dans beaucoup de vos sujets.
Oui.
Et Alma, c'est très politique, ça parle de l'esclavage.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est un mot qu'on utilise quand même dans... Je n'ai plus en tête tout ce que j'ai écrit, mais en effet, par contre, ce deuxième livre est encore plus politique sur tous les sujets qu'on aborde. Là, on a parlé tout à l'heure de J.K. Rowling, mais il y en a d'autres. C'est une littérature qui est justement tellement elle ressemble à ses lecteurs, la littérature ado, et donc les lecteurs c'est aussi les adolescents, c'est des personnes souvent très engagées pour les sujets qui vont les toucher. Ça va être l'écologie, ça va être en effet le racisme, ce genre de choses. Donc la littérature ado, elle est obligée de suivre ses lecteurs là-dessus. Ça serait ne pas lui faire honneur de ne pas en parler.
Elle les suit ou elle les précède ? Est-ce qu'il peut y avoir, dans ce que j'y pense là juste en t'écoutant, est-ce que certains livres peuvent susciter une prise de conscience ?
Oui, ça c'est sûr, oui. Oui, elle ne va pas les précéder dans le sens où elle ne va pas donner de leçons, elle ne va pas, pas être dans la pédagogie où on dirait descendante, hein, de quelque chose, on apprend quelque chose. Par contre, si on utilise le mot pédagogie, ça va être dans le sens où la littérature ado peut prendre par la main, des fois, pour accompagner le lecteur dans des sujets difficiles, à se comprendre, lui, des fois, ou à comprendre le monde qui l'entoure. Mais ça va toujours être à hauteur d'ado. Et ça va être autant sur des sujets qui vont plutôt être, en effet, amenés par les ados. On voit que c'est des sujets qui agitent les ados, ou alors sur des sujets peut-être qu'ils connaissent moins, mais avec qui, à qui on va avoir envie de transmettre ça. Mais c'est difficile de se tenir sur ce fil, de transmettre sans surplomber. Et bah, je pense à Une bouteille dans la mer de Gaza aussi, de Valérie Zenati, qui a été publiée il y a, je dirais, 20 ans maintenant, peut-être même plus. Voilà, il y a des livres comme ça qui ont marqué parce qu'ils réussissent très bien cet exercice. On sent qu'il y a un sujet qui anime l'auteur derrière, qu'on a envie de transmettre. Bah, même Alma de Timothée de Fombelle, en effet. Mais c'est fait avec tellement, bah, avec un récit, avec des personnages très forts, avec une écriture qui fait que c'est pas une leçon. Derrière, c'est une histoire, c'est des personnages qu'on découvre. Mais il se trouve aussi qu'on va apprendre quelque chose, ou qu'on va, en effet, avoir une prise de conscience.
Ça allie le plaisir et l'intelligence.
Tout à fait.
On peut dire ça comme ça,
ne peut que faire ça.
Pour les enfants aussi, pour les adultes aussi. Enfin, je pense que c'est ça a défini un peu la littérature, entre autres.
Et ça ne veut pas dire qu'on va toujours
avoir la beauté de la langue.
Oui. Et ça ne veut pas dire qu'on va toujours avoir des gros sujets comme, la question de la traite négrière et de l'esclavage, mais ça veut dire qu'on peut avoir aussi des sujets de l'intime, mais qui vont être traités avec une telle complexité, de la nuance, de l'introspection, qui fait que ça va en faire un grand livre. Oui.
Et puis il peut y avoir du pur imaginaire.
Et du pur.
Et ça, c'est important aussi, de pouvoir faire travailler son imaginaire, de pouvoir se sortir du réel immédiat.
Quelque chose de très divertissant. Et après, ce qui est intéressant avec les littératures de jeunesse, c'est de l'imaginaire, et qui fait que c'est très riche, c'est que on a plusieurs portes d'entrée. On peut le lire comme un pur divertissement. Si on prend La Passe Noire de Christelle Dabos, une série formidable que je conseille en fantasy, on peut le lire comme l'aventure d'Ophélie, l'héroïne dans ce monde, et jusqu'à la fin. Mais on peut aussi lire plein de choses derrière. Toute la question politique, toute la question j'ai perdu mon mot, mais plus théologique. Comme Harry Potter, tout à l'heure on en parle, on peut lire comme La Grande Aventure d'Harry Potter, et puis à côté on peut faire toutes les conclusions ou les interprétations qu'on fait depuis le début de l'émission.
Est-ce que je lis, je sens qu'on ne va pas avoir le temps d'en lire une seule de tes nouvelles, laquelle tu préfères que je lise alors ?
Peut-être que dans... Je pense qu'à l'oral, en lisant l'image, peut être...
Être intéressante, donc, du coup. Page 160, oui.
Je me dis qu'il peut donner bien au micro.
D'accord, voilà. C'est une de celles que j'avais retenues, une de mes préférées.
Des trois.
En lisant l'image, c'est de Esmé Planchon. Est-ce que tu peux la présenter ? Il y a tout un encart pour la présenter.
Alors Esmé, moi je l'ai découverte avec son livre Les histoires, ça ne devrait jamais finir. Quand on est grand lecteur ou grande lectrice, c'est vraiment le livre qui incarne à l'adolescence comment on se réfugie dans les histoires, et aussi comment on peut se faire des amis grâce à ça, et notamment aussi grâce aux communautés en ligne maintenant. Après, elle a publié Entrée fracassante des actrices, qui est un livre, un livre assez politique aussi, sous couvert d'une espèce de grand show de comédie musicale. Mais elle a publié en fait depuis plus de 10 ans maintenant, parce que son premier livre, c'était Faut jouer le jeu. Et voilà, c'est une autrice qui a vraiment un univers à la fois politique, mais à la fois aussi vraiment haut en couleur. Souvent feel good, avec ce qu'on peut trouver bon dans ce qu'on dit aujourd'hui être le livre feel good, donc qui fait sentir bien. Donc voilà, Esmé Planchon.
En lisant l'image, c'est parce que je m'appelle Rosa que j'aime me balader dans l'herbe avec une jolie ombrelle. Bien au contraire. Non, j'ai dit une bêtise, ce n'est pas... je suis en train de regarder à la fois ma table de mixage et puis le livre, je me concentre sur le livre. C'est pas parce que je m'appelle Rosa que j'aime me balader dans l'herbe avec une jolie ombrelle. Bien au contraire, ce tableau, c'est tout ce que je déteste. J'ai le droit de le dire, non ? À quoi elle sert cette spé histoire des arts si je ne dis pas ce que je pense ? Moi, j'aime les tableaux intenses et violents, pas les trucs jolis et sympas. Donc, analyse d'image, j'aime pas. Voilà, c'est tout, madame. Enfin, je peux développer, comme vous dites toujours en cours. Pourquoi j'aime pas ? D'abord, les couleurs sont très douces, trop douces pour moi. Ma mère, elle adorerait ce rose pâle, ce bleu ciel, ce vert tendre. Moi, je préfère le noir profond et le rouge vif. C'est pas mon style, les robes blanches et l'herbe fraîche. Je suis pas très bucolique comme ce genre de fille. Vous avez remarqué, non ? La fille sur le tableau, elle est toute mignonne. Et moi, ça m'énerve, celles qui sont en mode « Oh, regardez comme je suis jolie !» Mais peut-être qu'elles non plus, c'est pas mon style. Qui nous dit qu'elle a envie de porter cette jolie robe blanche, ce léger foulard, cette charmante ombrelle ? Alors le peintre, il l'oblige, il lui dit « Allez, tu te mets là, tu te tais maintenant, moi, je fais mon tableau. » Bah, elle peut pas dire non. Elle doit poser, rester immobile des heures. Au bout d'un moment, elle doit être lourde, cette fichue ombrelle, non ? Et lui, lapin douce, jolie, charmante, avec une robe couleur nuage, avec une ombrelle couleur herbe, avec un foulard couleur ciel. Elle n'est plus une vraie personne, mais un élément de paysage. En plus, elle doit avoir mal aux pieds et mal aux bras. Si ça se trouve, ce connard, il la force à poser. C'est possible, madame, non ? Il a peut-être un couteau, il connaît son secret, ou encore il peut faire du mal à sa fille. Alors, elle peut rien faire. Elle lui hurle dessus. Elle est obligée de se taire et de rester là, une fleur dans son paysage idéal à lui. Quel salaud ! Et nous, on regarde ça en se disant que c'est vraiment joli, ces couleurs. Ma mère, elle adore ce genre de tableau. D'ailleurs, elle ressemble à ce genre de femme. Et pour notre maison, elle chine toujours des jolies théières, des adorables coussins et des charmants napperons aux motifs de fleurs roses et bleues. Elle met des couleurs douces partout, comme si ça laissait la violence à l'écart de la maison. Mais non, bien sûr que non. Quand je regarde ce tableau, j'ai envie que la fille laisse tomber l'ombrelle à terre, qu'elle retrousse sa jolie robe blanche, qu'elle le plante là avec ses pinceaux et sa toile, et qu'elle parte en courant. Ma mère aussi, quand son mec lui dit de rester quelque part, elle ne bouge plus. Elle devient un élément de son paysage à lui. Entre le fauteuil et le papier peint, elle est assortie au décor. Madame, vous ne trouvez pas que c'est pareil ? Le peintre, il l'a bien assorti au décor, et puis même pire, il l'a rangé dans un cadre. Capturé. Justement, le mec de ma mère, il dit toujours ça, qu'il faut « la recadrer », entre guillemets. Et quand elle pleure, lui, il dit quoi ? Qu'il peut plus l'encadrer. Recadrer, encadrer quelqu'un, non mais quel connard, vous trouvez pas ? Et pourtant, cette fille-là sur votre polycopier de mauvaise qualité, est-ce qu'elle est vraiment prise au piège ? Peut-être qu'elle va pas se laisser faire, peut-être qu'elle peut se venger, peut-être qu'il a tort de la prendre pour une fille fleur. Finalement, je ne suis plus si sûre que c'est le peintre qui a le pouvoir, vu comme elle se tient debout sur la colline au-dessus de lui. Peut-être se cache-t-elle sous cette ombrelle, car c'est une vampire et que le moindre rayon de soleil peut la réduire en poussière. Dès qu'il a fini de le peindre, son tableau bucolique, elle s'approche de lui avec un sourire en coin. Elle le mord dans le cou et boit tout son sang. Ou alors, qui nous dit que la manche de cette ombrelle ne dissimule pas une épée, une dague, un poignard ? Alors oui, elle le menace avec le poignard et il dit pardon. Et elle demande tout son argent. Et lui, il dit « Ok, bien obligé ». Et elle l'insulte et elle le traite de tous les noms. Et ça lui fait du bien. Et avec l'argent, elle s'achète un grand bateau, un voilier rouge et noir. Et elle part sur la mer avec sa fille trop stylée, loin de lui et de sa maison remplie de couleurs douces. J'en ai beaucoup voulu à ma mère de ne pas dire « Mais oui, c'est un connard, de ne pas avoir un couteau dans son ombrelle, de ne pas être une vampire, de ne pas le menacer, de ne pas hurler, de ne pas l'insulter, de rester là, jolie et douce. Mais c'est ma mère, elle est jolie et douce. Ça ne l'empêche pas de vouloir s'échapper. Pourtant, plus je la regarde, plus je le regarde, ce tableau, et plus je me dis que peut-être je me plante complètement. Car sur ce tableau, elle est dehors. Oui, elle est sortie, elle est partie, pas en hurlant et en courant comme moi j'aurais fait, mais partie quand même. Elle a quitté le foyer étouffant, la maison remplie de canapés trop moelleux et son mec qui l'obligeait à rester là. Enfin, elle peut devenir femme ciel, femme herbe, femme nuage. Elle a le droit de passer des heures entières juste à poser pour un tableau. Après tout, je ne l'ai jamais vue, ma mère, avoir le droit de rien faire. Ça lui ferait du bien, rester là, dans le vent doux, sans penser à la vaisselle, à la lessive, à quoi que ce soit. Elle n'est plus femme au foyer, elle devient femme paysage. Dans le vent, dans l'herbe et dans le ciel, elle profite de chaque seconde de liberté. Vous avez vu, elle regarde déjà au loin, déjà hors du cadre où on a voulu la recadrer. Hors du cadre, j'imagine qu'il y a la mer et ses vagues, un grand voilier plein de copines à elle qui ont préparé un énorme pique-nique, un cheval pour partir au galop, des livres à lire sans interruption, des toiles et des pinceaux, pour qu'elle peigne ses propres tableaux en rouge et noir ou de couleurs douces comme elle veut. Alors, peut-être que le peintre, c'est pas du tout celui qui l'enferme et la recadre, non. C'est un ami qui l'a aidé à partir. Ou une amie d'ailleurs. Après tout, Claude, c'est un prénom pour les filles comme les garçons, non? Moi, je ne le connais pas, ce Claude, ou cette Claude. Donc peut-être que c'est une amie à elle, c'est utile, les amis. Grâce à sa meilleure amie, hier soir, on est partis, maman et moi. On a quitté cette maison remplie de couleurs douces et on a filé chez une amie à elle. Il n'y avait pas de couteau, pas de bateau, pas de vent. C'était pas si beau que sur un tableau, mais on est parti quand même, et donc c'est aussi pour ça que j'ai pas du tout eu le temps de réviser pour ce devoir sur table. Voilà, vous savez tout. Ma mère, ce n'est ni une vampire, ni une tueuse, mais elle a été capable de fuir et de s'inventer son propre paysage. Je lui montrerai le tableau ce soir, ça va lui plaire. Et moi aussi, finalement, il me plaît bien. Bon. Je relis la consigne et je me rends compte que je me suis un peu éloignée du sujet en fait. Pardon, je viens de voir qu'il fallait faire 5 lignes sur le courant artistique auquel appartient cette œuvre. Franchement, j'en sais rien, je m'en contrefiche du courant artistique. J'espère juste que c'est un art où l'on peut partir en courant. Voilà, Tom. Moi, c'est... Oui.
Elle est super. Ouais.
Elle est super.
Je n'avais jamais entendu à voix haute, ça.
Esmé Planchon. Alors, ce courant, c'est plutôt l'impressionnisme.
Oui, c'est un tableau de Claude Monet.
Voilà.
Je n'ai plus le nom exact.
Oui,
mais
alors moi, ça m'a fait penser au départ à Renoir, mais bon, c'est Monet. Je voyais bien les petites filles avec les robes de Renoir. Mais oui, voilà, c'est le courant impressionniste. Belle histoire. Son dernier roman, Esmé Planchon, c'est La neige au rendez-vous.
La neige au rendez-vous. Il vient juste de paraître. C'est une romance de Noël, mais avec une romance lesbienne. Je ne l'ai pas encore lu, mais c'est sur ma pile des livres à lire.
Oui, tu dois avoir une pile
à Noël,
grosse comme une montagne. Tu arrives à assurer toutes les lectures.
Je ne peux pas tout lire comme beaucoup, mais j'essaie d'en lire le plus possible.
Alors, nous allons écouter Les oiseaux de nuit. C'est toujours les Vipers Circus qui chantent N'importe Nawak. Et j'ai choisi cette chanson. Bon, c'est au départ un livre, un disque pour les enfants distribué par l'autre distribution. Mais je pense que c'est écoutable un peu à tous les âges parce que de la bonne littérature, elle peut être lue à plusieurs âges. Et là, Les Oiseaux de nuit, c'est avec Checky Cario qui vient de mourir. Donc, c'est un petit peu un hommage.
On filait sous la lune, Olga et moi. On filait sous la lune, sur une troïka. Chante, chante, petite Olga, la lune qui s'en va. Chante, chante, balalaïka, la lune qui s'en va. Une lune qui s'enfuit, deux étoiles qui brillent. Il s'avance sans un bruit, les oiseaux de nuit. Attrape-moi la lune, disait Olga. Je n'ai d'autre fortune que celle-là. Chante, chante, petite Olga, la lune qui s'en va. Chante, chante, balalaïka, la lune qui s'en va. Une lune qui s'enfuit, deux étoiles qui brillent, il s'avance sans un bruit, les oiseaux de nuit. On filait sous la lune, Olga et moi. J'ai repêché la lune dans la Volga. Chante, chante, petite Olga, la lune dans tes bras. Chante, chante, balalaïka, la lune dans tes bras. Une lune qui s'enfuit, deux étoiles qui brillent. Il s'avance sans un bruit, les oiseaux de nuit.
De découvrir cette belle chanson. J'ai vu que tu l'as écoutée attentivement, avec émotion.
Oui, j'étais pris dedans, si bien qu'on m'a posé une question, je n'ai pas du tout entendu. Très belle chanson, oui.
Donc, c'était les Whippers Circus qui invitaient Checky Cario. C'était en 2016, j'ai retrouvé
la date.
C'était donc, il y a bientôt 10 ans. Alors, nous avons un milliard de sujets qui sont abordés dans Enquête d'un grand peut-être. Oui. A-t-on besoin encore de la littérature ado, tome 2 de Tom et Nathan Lévesque sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité de la Fédération anarchiste, sauf la pub pour les, pour les œuvres de nos invités, qui est un livre de référence pour les passionnés de la littérature ado. J'ai même pas lu la quatrième de couverture. C'est pas la peine quand on a l'invité dans le studio. Eh bien, nous avons une requête de l'enfant qui est là, c'est de parler.
Est-ce que vous allez parler de manga?
Eh bien, moi aussi, je voudrais vous poser la question.
Le manga, donc on a en effet un chapitre, donc le premier livre était 100% dédié à la littérature ado, et le sujet principal du deuxième est toujours la littérature ado dans le sens les romans, mais une des grandes questions de ce livre c'est, a-t-on encore besoin de la littérature ado? Et la question s'est posée notamment avec l'explosion de nouvelles lectures chez les enfants et les ados, et donc notamment le manga, donc surtout ça a vraiment explosé après le confinement en 2021. Donc là j'ai retrouvé un chiffre, en 2021 47 millions de mangas se sont vendus, soit deux fois plus que l'année précédente, et pour un comparatif, pour les romans jeunesse et ados tout confondu, par an s'en vendent à peu près 28 millions. Donc on est quand même un tiers de plus quand même pour le manga. C'est un genre qui s'est vraiment développé et qui attire les ados pour plein de raisons. La première, c'est la place de l'illustré. Évidemment, c'est vrai qu'il y a une grande place à l'image puisque c'est, on va dire, à 70% de l'image. Mais il y a plein de choses qui font qu'on peut aimer le manga. Souvent, il y a l'humour aussi. C'est souvent des séries très drôles. C'est des très longues séries aussi. Il y a beaucoup d'aventures, des héros et d'héroïnes très fortes. Donc, ouais, c'est un genre qui a pris énormément de place en littérature, dans les lectures pour les ados. Et on oppose souvent le manga et le roman pour deux raisons. D'abord, en disant que le manga, c'est une moins bonne lecture. Évidemment, c'est pas le cas. C'est juste une lecture différente. Et souvent, c'est une question qu'on s'est posée, nous, parce que beaucoup de parents venaient nous voir et nous disaient « mon ado ne lit pas, mon ado ne lit pas ». Et puis après, il y avait l'ado de peut-être 12 ans qui venait et qui nous disait « tous les soirs, je lis un tome de Dragon Ball avant de m'endormir ». Et nous, on était d'accord. Donc en fait, la mère, elle dit « il ne lit pas ». Et en fait, lui, il lit tous les soirs. C'est juste souvent que c'est tellement mal jugé, voire méprisé, qu'on va penser que c'est une moins bonne lecture. Et donc en fait, les ados ne lisent pas ce que les parents ont envie qu'ils lisent, mais ils lisent, et notamment des mangas. Donc voilà, ça a pris beaucoup de place aujourd'hui dans les lectures.
Et on pourrait dire aussi par rapport à l'école. Ils ne lisent pas ce que l'école réclame.
Exactement. Et moi, je le vois, on fait beaucoup d'ateliers, notamment autour de la carte des 100 incontournables. Et quand je fais un atelier, je pars de leur lecture et je leur fais faire ensuite leur propre carte de lecture incontournable. Et là, c'est l'occasion de déconstruire plein d'idées reçues, parce que souvent, pareil, ils disent « je ne lis pas ». Et en fait, s'ils lisent, c'est juste qu'en effet, surtout dans un cadre scolaire, ils ne lisent pas de romans, pas toujours. Ils ne lisent pas les romans classiques, ou alors ils les lisent, mais ils ne les aiment pas. Voilà, alors après, c'est sûr que ce n'est pas la même lecture, donc ça convoque autre chose. On ne va pas se construire nous-mêmes les images, puisque c'est l'illustré qui le fait à notre place. Il y a moins de textes. Mais à l'inverse, ça va convoquer un autre sens de lecture, souvent, puisqu'on lit dans le sens inverse, comme c'est fait.
Oui, les mangas, c'est à l'envers de notre lecture.
Il va y avoir, c'est une lecture d'image aussi, et la lecture d'image, ça convoque aussi une intelligence qui est nécessaire pour les ados et dans leur construction. Ça va convoquer aussi d'autres univers, d'autres manières de raconter les histoires, et en ça, c'est très précieux aussi.
La lecture d'image, c'est au programme scolaire. La lecture de l'image.
Mais plus de l'image de Claude Monet que de l'image du manga.
La lecture de toutes les images. Enfin, quand j'étais encore en fonction dans l'éducation nationale, c'était au programme. Oui. La lecture de l'image en général, avec des comparaisons texte-image, image à image, dessin à photo, etc. C'est une lecture du monde qui nous entoure, le monde est visuel, ce sont des images animées dans la vie. Et le manga et la bande dessinée en général.
Tout à fait. Mais de toute façon, la bande dessinée aussi, elle a toujours été mal vue par rapport au roman, à la, entre guillemets, vraie littérature. Évidemment, j'utilise plein de guillemets. C'est aussi que le manga, c'est quelque chose qui est beaucoup lu par les ados et les jeunes, et de tout temps, la culture jeune a été méprisée. Du temps de la culture yéyé de Françoise Hardy, on critiquait aussi Françoise Hardy, et aujourd'hui,
on
la critiquerait pas.
C'est une grande autrice maintenant, elle est sur France Musique.
Donc c'est une question de légitimité aussi. La question derrière, là où je peux l'entendre, c'est que les parents s'inquiètent que les ados lisent moins de romans, moins de gros livres, moins de textes. Et c'est vrai que ça, c'est très important aussi, et cognitivement, et puis pour la concentration. On a une attention aujourd'hui qui est plus fragmentée, notamment à cause des réseaux, des téléphones, des images. Donc c'est une inquiétude qui s'entend aussi, mais voilà, de là à dire que c'est pas de la lecture et qu'on peut pas y trouver des grandes œuvres qui vont aussi faire postérité, ça c'est faux. Et au contraire, il faudrait aussi, quand on est un adulte et qu'on est entouré d'ados, d'abord en lire avant d'en parler ou de le critiquer, pour se faire une idée et pour au contraire pouvoir échanger avec les ados, quitte à ensuite leur conseiller des mangas que nous on va juger bons. Et à l'inverse aussi, écouter les ados qui vont nous conseiller des... Moi, je note à chaque rencontre avec les ados, je note des idées de livres à lire, parce que je suis souvent dépassé par ce qu'ils aiment, mais parce que c'est les livres qu'ils aiment. Et au contraire, c'est génial aussi qu'on s'apporte ça les uns les autres.
Moi, dans les mangas, ce qui me gêne, c'est la façon dont ils dessinent les visages.
Oui, il y a un vrai code, oui.
Il y a un code qui me... J'arrive pas à m'y habituer. Alors que dans certains dessins animés, par exemple, Miyazaki. Oui, j'adore, parce que le dessin est beaucoup plus fouillé, ou peut-être que c'est animé. Oui. Pourtant, je suis une grande lectrice de bandes dessinées et de romans et d'essais. Enfin, je pense que ça n'est absolument pas incompatible.
Après, c'est un style qui est assez répandu, mais il y en a plein des mangas. C'est comme si on jugeait toute la fantasy en parlant d'Harry Potter, ou toute la dystopie en parlant d'Hunger Games. Si c'est ce style-là qui plaît pas, en fait, il y en a plein d'autres, des styles comme une BD. On peut avoir un style franco-belge à la Tintin, ou un style
tout
beaucoup
fait,
plus
oui.
de peinture. Il y a plein de styles différents aussi.
Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu nous recommanderais ? Alors, il y a, avant que tu nous donnes tes conseils, il y a un autre genre que je ne connais absolument pas, c'est la dark romance. C'est la romance noire,
oui.
C'est-à-dire,
alors,
ça
la dark romance,
pour les filles.
C'est un autre gros sujet du livre, et une des questions qu'on nous a le plus posées aussi ces dernières années, qui était: que faire de la dark romance ? Alors, pourquoi tous les professionnels sont inquiets, c'est que la dark romance, c'est un genre de la romance, un sous-genre de la romance, qui existe en réalité depuis 10, voire 15, 20 ans, où la dark romance, un peu tout est dans le nom, c'est que c'est des romances dans lesquelles on va avoir souvent de la violence, ou au moins des relations d'emprise, donc quelque chose d'assez violent, ou psychologiquement, voire parfois physiquement. Ça pose plein de questions, puisque c'est souvent une représentation qui est critiquée, puisque c'est une représentation et de la violence, voire parfois du viol, ou de l'emprise psychologique. Ça a été très critiqué, parce que c'est très loin aujourd'hui des valeurs qui sont, depuis MeToo, il y a 10 ans, mise en avant, qui sont les valeurs du féminisme, d'émancipation, de consentement, toutes ces valeurs-là qu'on connaît mieux aujourd'hui. Mais il y a eu une espèce de, en effet, depuis 2 ans, une espèce de panique morale autour, en fait, du succès d'un livre qui a percé grâce au réseau social TikTok, qui est Captive, de Sarah Rivens, qui fait qu'aujourd'hui, c'est l'autrice algérienne la plus vendue au monde. Donc Captive, a été très lue. Mais là où avant, la dark romance était pour un lectorat plutôt... c'est des livres adultes, la dark romance, sauf qu'aujourd'hui, c'est lu par des ados, voire par des très jeunes ados qui ont parfois 11, 12 ans. Mais il y a une vraie panique morale autour de ce sujet-là, donc on a fait tout un article pour se poser la question de la dark romance, en effet, vrai problème ou panique morale. On reprend notamment beaucoup de propos de Magali Biguet, que je vous invite à aller écouter dans des émissions sur France Inter, ou alors aller voir un de ses colloques si un jour vous en avez l'occasion, où elle a fait tout un travail universitaire depuis des années. Donc elle avait commencé sur 50 nuances de Grey, qui est un peu l'ancêtre avec Twilight de la dark romance, et qu'aujourd'hui elle a fait sur la dark romance, d'aller interroger plein de lectrices et de de s'intéresser à la réception justement des œuvres par les lectrices. Et ce qu'elle met en avant, notamment aujourd'hui, dans tous les, après avoir rencontré pas mal de lectrices, je dis lectrices parce qu'il y a des lecteurs aussi, mais c'est quand même, je pense à, j'ai pas d'études statistiques, mais presque à 100% des lectrices, c'est quand même qu'elles ont ce recul-là sur les œuvres qu'elles lisent et qu'elles vont dire « je sais que c'est pas la réalité », voire « ça m'apprend à où sont les drapeaux rouges vers lesquels ne pas aller quand je suis dans une relation » ou alors qui ne cherchent pas cet apprentissage-là, mais sont très conscientes et disent « ah ben moi j'adore ce livre, mais par contre, évidemment que je ne veux pas ça dans la vraie vie ». Et c'est important de redonner cette intelligence-là aux lectrices parce qu'elles ont cette lecture-là. C'est vrai qu'on peut se poser plus de questions quand elles ont 12 ans, parce que le recul est plus difficile forcément, on a moins d'expérience et on a moins été éprouvé par ce réel-là. Mais la chose qu'on peut rajouter aussi, c'est qu'on s'intéresse beaucoup à ces livres-là. Aussi, pourquoi ? Parce que c'est des lectrices, parce qu'ils sont écrits par des femmes. Par exemple, on se pose moins la question du manga et de la violence qu'il y a dans les mangas, qui sont parfois lus par des enfants de 10 ans, qui lisent L'Attaque des Titans, qui est un manga, mais ô combien violent aussi. Et puis en plus, là, c'est visuel. Mais par ailleurs, ce qu'il y a derrière la dark romance, c'est tout un problème beaucoup plus général dans la société, de toute la culture du viol. Et la dark romance en est une incarnation, mais c'est pas là la source du problème. Donc voilà, c'est un petit résumé de cette partie-là que vous pourrez lire dans le livre. Mais voilà, c'est ça tout le débat aujourd'hui autour de la dark romance. Et à la fin de l'article, j'ai écrit toute une espèce de boîte à outils sur comment on fait maintenant, parce qu'on ne va pas pouvoir interdire aux lectrices de lire, parce que de toute façon, les ados, on sait très bien que si on leur interdit de faire quelque chose, ils vont le faire.
Même quand on n'est pas ado, c'est...
Voilà,
exactement. On titille le désir de faire le contraire de ce qu'on nous dit.
Si on nous dit ne fais pas ça, la première chose qu'on va avoir envie de faire, moi c'est ce que j'ai fait ado, le premier livre qu'on m'a dit ne le lis pas, je l'ai pris derrière le dos des adultes quoi. Mais c'est comment on fait maintenant, est-ce qu'on l'a dans le fond des bibliothèques, des librairies, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme espace de dialogue avec les ados pour discuter aussi du fond derrière. Les premiers conseils évidemment, c'est comme j'ai dit pour le manga, lisez-en, faites-vous votre avis, ne partez pas avec des idées reçues, typiquement captives. On a beaucoup dit c'est la culture du viol, en réalité il n'y a pas de viol qui est représenté, en tout cas dans le premier tome, moi j'ai pas lu la suite. Il y a de la violence et de l'emprise, mais c'est aussi un parcours d'émancipation, de libération, et c'est ce que beaucoup de lectrices sortent de ce livre quand elles ont fini de le lire. Elles aiment aussi parce que l'héroïne s'en sort, et pas forcément... ce qu'elle ressort, c'est pas forcément l'histoire d'amour, c'est aussi la famille choisie qu'elle se crée avec les amis autour. Donc voilà, je dis pas que c'est complètement bien, mais je dis qu'il faut prendre ces sujets avec des pincettes.
Tu me fais penser à un souvenir d'adolescence, je crois que j'étais en 6e ou en 5e. Je me suis fait punir parce que j'avais fini mon travail et je lisais en cachette sous la table, et c'était Ambre. D'accord. Je me souviens absolument plus de l'autrice. Là, j'y repense maintenant. C'était un livre à scandale. Je ne sais pas si ça existe encore, si c'est connu, mais ça s'appelle Ambre. Oh, c'est plutôt de la romance.
Oui, dans le livre, on a interrogé une autrice psychologue qui a écrit chez Thierry Magnier, qui a peur de la littérature ado et qui va sortir d'ailleurs un nouveau livre l'année prochaine, un peu sur ces sujets-là, et qui s'est beaucoup intéressée à la question de la dark romance aujourd'hui, parce qu'elle, ça se rapproche de ces sujets sur... Parce qu'elle, qui a peur de la littérature ado, c'est un livre sur la question du tabou dans la littérature ado, et notamment sur le sujet de la sexualité. Et elle a raconté en effet que, donc je ne sais pas à quel âge, mais quand elle était ado, elle, les livres qu'elle avait interdiction de lire dans la bibliothèque familiale, c'était Histoire d'eau ou Le Marquis de Sade.
C'est nettement plus lourd, voilà, Le Marquis de Sade.
C'est très violent. Et en fait, elle lisait ça dans...
Moi, je n'ai pas pu atteindre la fin de ce que j'ai essayé de lire.
Je pense que ça l'a choqué aussi à cet âge-là. Et elle a... Mais voilà, c'était le livre qu'elle n'avait pas le droit de lire. Donc, le jour où ses parents sont partis en balade sans elle, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a été vers ça. Ce qui va être important derrière, c'est le dialogue qu'on va créer. C'est qu'est-ce qu'on retire de ça ? Il faut aussi se rappeler qu'un livre, c'est pas un film. On peut l'arrêter plus facilement. C'est pas des images qui nous arrivent. On peut aussi y mettre que ce qu'on a vécu, nous. Donc, je pense que moi, par exemple, quand j'ai commencé Captive, j'avais une rencontre scolaire juste à ce moment-là. une élève met ça sur sa carte. Elle avait 12 ans et je lui dis, mais moi je l'ai commencé, mais j'ai trouvé ça super dur et violent. Et elle dit, ah, moi pas du tout. Mais en fait, parce que moi je vois, je mets plein de choses derrière qui sont mon background, qui sont ce que j'entends dans les médias, qui sont. Donc on n'a pas non plus les mêmes représentations de la violence. Mais c'est important d'en parler, oui.
Oui, c'est important d'en parler parce qu'elle existe. Et justement, en parler avec les adultes, avec les enfants, avec les ados, c'est important de ne pas les laisser seuls face à ce qui est terrible quand même. Je voulais te parler, il y a bon, parmi les sujets, Boutok, l'IA, on va essayer de... Il faudrait que tu reviennes un jour. Mais il y a le polar en littérature ado à quand le grand retour, parce que ça avait disparu. Il y a une page, je ne sais plus laquelle, page 59. Le polar avait disparu en littérature ado.
Alors, c'est jamais une question de disparition. Les genres littéraires, ils existent. C'est comme dans la littérature générale, ils existent. Donc, quand je dis général, c'est adulte, c'est qu'ils existent tout le temps. C'est juste qu'il y a des genres qui prennent plus ou moins le dessus. Donc là, par exemple, en ce moment, là, on parle de dark romance, mais de manière plus générale, c'est la romance qu'elle vend en poupe et les ados ont envie de lire ça. Il fut un temps quand c'était Harry Potter, on avait envie de lire que des histoires de sorciers. Quand ça a été Hunger Games, on avait envie de lire des dystopies et des histoires futuristes. Donc il y a des cycles comme ça qui se font notamment autour de gros succès. Le polar a été un peu moins présent dernièrement et là revient un peu en effet sur le devant de la scène avec des polars ou des thrillers ou des romans noirs ou... donc voilà, ça c'est un des genres qu'on a mis en avant. Donc en fait on a fait plusieurs focus dans ce livre là sur différents genres. Donc le polar, la fantasy, les livres drôles
et l'horreur. Voilà, justement, je vais en parler aussi.
Le livre et l'horreur aussi qui revient sur le devant de la scène. Il y a quelques années, c'était Chair de poule.
Ouais.
Quand moi j'étais enfant, on s'arrachait les chairs de poule. Aujourd'hui, il y a des nouvelles collections. Bah voilà, Chair de poule est toujours lu aujourd'hui. Tu en as lu aussi?
Non, mais c'est mes potes, ils ont vu le film.
Les films, ouais. C'est notamment pour ça, oui, c'est qu'il y a beaucoup d'adaptations aujourd'hui. Donc là, on se remet à publier aussi des romans d'horreur. Alors moi, perso, c'est pas mon truc. Mais il y en a qui adorent ça. Et voilà, c'est les quatre genres. Mais après, on pourrait faire des focus sur tous les genres. Mais il fallait en choisir quatre.
Moi, j'aimais bien les romans à énigmes. Mais je me souviens, même adulte, je continuais de lire des souris noires.
Oui.
C'est bah il y a Danax qui a écrit dans il y a des grands écrivains, Didier Danax qui est venu à ce micro un des premiers souris noires, c'est lisible, sont des romans courts, très courts, mais c'est lisible par les enfants, les ados, les adultes, il n'y a pas de frontières des âges de ce genre de littérature. C'est ça que j'aime bien d'ailleurs.
Oui, c'est des livres qui d'ailleurs, c'est vrai, passent assez facilement entre les mains d'ados et d'adultes et inversement. Ce qui est intéressant, c'est aussi dans la question du polar qui va rejoindre ce qu'on a dit sur le manga, ce qu'on a dit sur la dark romance, c'est que les ados, en réalité, ils adorent, et on en parlera peut-être si on parle des romans drôles, mais ils adorent les romans sombres, les histoires tristes. Il y a un truc cathartique aussi à aller lire des choses qui sont sombres et on va au plus profond de la violence ou des tréfonds de son âme pour en ressortir. C'est toujours ce qui va être le cas en littérature ado, avec quand même, au bout, une fenêtre ouverte, comme dit Marie Aude Muraille, une lumière, quelque chose qui fait que on respire, ça finit bien quand même. Mais le polar, c'est ça que les ados adorent, oui, c'est ce côté. Et évidemment, il y a l'enquête derrière, on ne sait pas ce qui va se passer. Moi aussi, j'adore ce genre-là pour ça, ce côté mystère. Donc ça revient vraiment, ouais, avec des aujourd'hui, avec des livres qui sont très récents. Qui reprennent ces genres-là.
Et puis c'est une porte ouverte vers des livres plus gros, plus tard.
Oui, tout à fait. Et alors, pour s'intéresser à la question du livre drôle, c'est qu'on s'est posé... C'est une question qu'on nous a beaucoup posée aussi, de où sont les livres drôles en littérature ado. Et ça, c'est ce que... Ça répond à ce que je viens de dire, ou ce que j'ai dit avant répond à ça. On a beaucoup cette vision, je pense, d'adulte, qu'il faut absolument donner aux ados des livres drôles, des livres qui se passent bien, etc. Alors que les ados, ils recherchent aussi ça, ce côté sombre. Par contre, c'est vrai que moi aussi, même dans ce que j'écris moi en fiction, j'ai envie aussi de cette lumière-là, de quelque chose. Je parlais du mot feel good tout à l'heure, qui est un mot anglais qu'on utilise beaucoup pour parler de ces romans-là
bien,
qui font
ouais.
du bien, qui sont drôles, de ce roman qui fait du bien. Et ce qui est intéressant aussi dans l'humour, et c'est pareil, c'est le cas au cinéma aussi, c'est que la comédie, c'est souvent un genre qui est beaucoup moins valorisé que
tout
le drame.
Fait, oui.
Et il y a quelque chose aussi de politique là-dedans, de s'emparer de l'humour et du fait d'être drôle et du fait de faire des romans bien pour aussi dessiner un monde plus heureux, d'avoir une lumière quelque part qui... Des horizons, c'était la militante écologiste, ça y est, son nom m'échappe. Bref, une militante écologiste française qui avait participé à la création d'une collection de littérature ado sur des sujets d'écologie, c'était aux éditions Glénat, et le but de la collection était aussi de donner des horizons heureux, et elle avait fait une espèce de vidéo où elle présentait ça en disant justement que c'était important de les avoir, ces horizons heureux, aujourd'hui, pour pas se projeter seulement dans des catastrophes et dans des choses terribles, mais d'avoir un espoir quelque part pour qu'on puisse tendre vers ça et ensuite trouver les moyens pour y aller, quoi. Et ça va se faire dans la fiction.
Et là, il y a des pages qui sont vraiment importantes, qui, entre 56 et 58, où sont les livres drôles en littérature ado. Et tu parles de sociabilisation, rire ensemble, ça n'est pas se moquer de... C'est pas rire sûr, c'est pas se moquer d'autrui.
Exactement.
L'humour, là, tu cites... un livre très important, tout sur la littérature jeunesse de Sophie van der Linden, paru en 2021. Tu en parles beaucoup dans le
oui.
livre. L'humour est une soupape de liberté en même temps qu'une douce remise en question de l'autorité des adultes.
Oui.
Et tu rajoutes un peu plus loin, ça c'est Julie Thévenot, l'humour n'est ni neutre ni international. De plus, quand on rit d'une chose ou d'une personne, on rit selon un point de vue. Si ce point de vue n'est pas interrogé consciemment, il peut rendre l'humour violent.
Oui.
C'est important parce que on peut tuer avec de l'humour, on peut tuer intérieurement. Enfin, je veux dire, c'est pas une balle dans le corps, mais ça peut être très méchant et ça peut être de l'ironie, ça peut être de l'humour méchant ou ça peut être du rire ensemble avec et non pas sur.
Hein. Oui, bah, c'est ce qui fait que c'est très difficile en fait de faire rire. Un des meilleurs livres là-dessus en littérature ado, c'est Les Petites Reines de Clémentine
voilà.
Beauvais. C'est très très difficile d'écrire l'humour, c'est pareil au cinéma, une bonne comédie, c'est très difficile à faire, parce qu'on va en effet tomber soit dans l'humour qui fait mal, dans l'humour qui va se moquer, dans l'humour des blagues un peu faciles qu'on a déjà entendu partout, quelque chose de graveleux, c'est pareil en littérature, et pourtant il y en a plein, donc là il y en a plein des exemples dans le livre, il y a Comment bien rater ses vacances, Les Petites Reines, Viking Girl, enfin voilà, j'en cite que trois là dans tout cela, mais c'est des livres qui sont très réussis là-dessus, alors que vraiment, bah voilà.
Ce que tu dis, Les Petites Reines, c'est un roman social, néanmoins l'humour donne corps à son propos et elle le rend ainsi plus accessible. On comprend les choses par l'émotion d'une façon plus impactante et plus légère. J'ai envie là de mettre Brigitte Fontaine, genre humain, dans le genre humour, c'est vraiment important. Brigitte Fontaine, 1995.
Je me suis trouvée là, dans ce corps inconnu. Pour Dieu, c'est quel gars-là, je ne l'ai jamais su. Soudain parachuté, d'étranger.
Elle la connaît.
Ange au supermarché, il m'a fallu danser. La Java des terriens, sans en connaître rien. Souvenir brumeux d'une c'était l'œil vert du feu, ou la reine invisible. Je m'éveille dans ce lupanar impossible. Moi, l'eau du paradis, l'ocre des galaxies. Je fais un genre.
Radio Libertaire des cailloux dans l'engrenage, l'enfance poil à gratter. Nous parlons de l'adolescence. En quête d'un grand peut-être, a-t-on encore besoin de la littérature ado aux éditions du Grand Peut-être par Tom et Nathan Lévesque en présence de Tom. Et c'est le tome de Tom, T-O-M, et le tome de, je ne sais pas si on dit tome de, T-O-M, voilà la langue française. Alors Tom, nous allons parler de deux choses, des conseils et aussi la censure.
Oui. Donc dans le livre, on a un article sur la censure d'un livre de littérature ado qui a eu lieu il y a 2 ans. C'était important d'en parler parce qu'on entend beaucoup, on entend souvent parler en littérature jeunesse et ado de questions de censure, notamment quand on va se poser sur des débats politiques, sur les débats de genre, etc. Alors que c'est des débats qui sont amenés, mais on n'est pas dans des questions de censure. La vraie censure, elle a eu lieu il y a 2 ans par le ministre de l'Intérieur, à l'époque Gérald Darmanin, qui a signé un arrêté pour interdire la vente aux mineurs de Bien trop petit de Manukos, qui est un livre de la collection L'Ardeur chez Thierry Magnier. Donc cette collection L'Ardeur, elle veut remettre au centre dans ses romans la question du corps, donc de la sexualité, des premiers émois, de la sensualité, que ce soit avec d'autres ou avec soi-même. Et c'est une collection qui est du coup très regardée, des prescripteurs qui vont parfois considérer qu'on ne peut pas parler de ce sujet aux ados, alors que c'est un sujet qui évidemment les concerne, auquel ils peuvent parfois beaucoup penser. Donc c'est important d'avoir des livres qui vont venir répondre à ces questions-là. Et donc, il y a 2 ans, enfin, il y a 3 ans, est paru Bien trop petit, donc écrit par Manu Kos. Et la jeunesse de Sleeve, c'était de faire un livre qui, dans cette collection, en fait, on a beaucoup de points de vue féminins, et l'éditrice, elle voulait un point de vue masculin aussi, parce que la question de la sexualité, elle n'est pas que chez les filles. Et donc Manu Kos a écrit un livre où il met en scène un garçon qui écrit des histoires érotiques sur Internet. Et dans ces histoires érotiques, il y a en fait plein de clichés et de stéréotypes que va venir déconstruire un personnage. On ne sait pas trop, je crois, si c'est une fille ou un garçon qui va venir l'épingler. Et, lui, voilà, et au fur et à mesure, il va créer une relation épistolaire avec elle. Et en même temps, faire évoluer ses histoires. Donc le livre paraît en 2022, et en juillet 2023, la maison d'édition reçoit une lettre qui dit... ils ne reçoivent pas de lettre, ils découvrent l'arrêté de Darmanin. Alors il faut savoir, pour la littérature jeunesse, qu'il y a une loi qui l'encadre, qui est la loi du 16 juillet 1949.
Oui, c'est vraiment ancien.
Qui est ancienne, qui a été créée après-guerre, et dans les termes de la loi, il y a l'idée de ne pas démoraliser la jeunesse. Et dans cette idée de morale, à l'époque, c'était aussi la morale dans le sens la bonne morale, mais aussi dans le sens de démoraliser, dans le sens c'était après-guerre et il fallait des livres aussi qui donnent de la joie à la jeunesse. Donc c'est une vieille loi, en effet. C'est aussi une loi qui a été créée au moment de l'arrivée du comics. Comme il y avait beaucoup d'Américains en Europe, le comics est arrivé et ça a fait peur à tous les adultes, pour la jeunesse.
L'ancêtre de la BD, en fait.
L'ancêtre de la BD, ouais. Ouais. À l'époque, c'était mal vu, comme beaucoup, on en a déjà parlé, comme beaucoup de genres. Et donc, adossé à cette loi, il y a une commission, la commission de surveillance, qui va recevoir toutes les publications destinées à la jeunesse, et qui va, pas toutes les lire, évidemment, mais qui essaie d'en lire le plus possible. Et quand il y a quelque chose qui va poser question, la commission a assez peu de pouvoir, finalement. Ce qu'elle fait souvent, c'est des lettres. Donc elle avait quand même fait une lettre à Thierry Magnier pour le prévenir, etc. Et après, on ne sait trop comment Darmanin a eu connaissance de ce livre, de cette lettre, etc. Mais il a décidé d'interdire la vente aux mineurs. Ils ont interdit la vente à partir... Donc l'arrêté dit... qui dénonce la description complaisante de nombreuses scènes de sexe très explicites et un contenu à caractère pornographique représentant un danger pour les mineurs, notamment en page 61, 62, etc. Donc ce qui est intéressant de voir là-dessus, c'est qu'en fait, ils sont basés sur les extraits des histoires érotiques qu'écrit le personnage dans le livre. Donc en fait, ils ont extrait du livre des passages qui en effet sont très érotiques, voire pornographiques, mais c'est toute la question du livre, de déconstruire cette écriture-là et de venir la remettre en question. Et il y a des dialogues entre les ados. Donc, c'est déjà une censure qui est faite seulement sur des extraits complètement sortis de leur contexte.
C'est quelqu'un qui n'a pas lu le livre, en somme.
C'est tout à fait quelqu'un qui n'a pas lu.
Darmanin, est-ce qu'il va lire de la littérature?
Non, et peut-être que c'est même pas lui qui... Enfin, il y a sans doute de la pression de lobby derrière. Enfin, ouais. On peut imaginer plein de choses.
Deux lobbies qui n'ont pas lu le livre.
Oui. Et puis par ailleurs, il y a une question derrière qui est, peut-on parler de sexe auprès des ados? Nous, en tant qu'auteurs ados, éditeurs, on en est évidemment convaincus, il faut le faire, au contraire.
Surtout que c'est l'éveil de la sexualité et que ça, c'est paniquant quand même. Moi, j'ai un souvenir de mon adolescence paniquée de ce côté-là.
Oui. Et en même temps, justement, c'est parce qu'on est entouré de tellement de choses qui dit qu'il faut le censurer, que c'est pas bien, etc., qu'on n'est même plus dans un éveil, justement, qui pourrait être très heureux, aussi très joyeux. La découverte de son corps, si on en a envie,
en
les
mutation,
autres ont envie de la découverte des autres, de la découverte d'une autre manière d'être avec les autres. Donc ça, c'est quelque chose qui est important auprès du public ado. Ce qui est important de se dire aujourd'hui, c'est que du coup, la censure qu'il y a eu de ce livre, elle a eu un impact très fort sur la maison d'édition, puisque ils ont dû... Alors, le livre, en soi, s'est bien vendu grâce à ça, parce que les libraires qui défendaient cette collection, ce livre-là, l'ont au contraire mis en vitrine et largement conseillé. Mais la maison d'édition, par contre, est très surveillée, du coup, sur toutes ses publications. Donc, le risque, d'abord, c'est celle d'une autocensure. Quand on a peur, forcément, ça peut être de s'autocensurer. Et après, il y a des risques tout à fait économiques. Ils ont dû pilonner les catalogues. Donc, quand je dis pilonner, c'est-à-dire détruire
les catalogues de livres, tous les livres qui mentionnent, parce qu'à chaque fois, à la fin d'un livre de la collection L'Ardeur, ils en conseillent d'autres. Donc ils ont dû, pareil, pilonner les livres qui conseillaient bien trop petits, parce que du coup, on ne pouvait pas conseiller un livre pour adultes et interdire la vente aux mineurs dans un livre pour ados. Donc voilà, ça a des vraies conséquences financières, des vraies conséquences...
D'autant plus morale, qu'il faut, il faut d'autant plus soutenir Thierry Magnier dans...
Voilà.
Qui a parlé sur cette...
Thierry Magnier et toutes ces littératures qui vont oser justement s'emparer, parce qu'on peut tout dire en littérature ado. Donc les sujets qu'on va dire difficiles, la violence, la sexualité, il faut le faire. Et on a des auteurs justement en littérature ado qui savent le faire. Et on peut leur faire confiance et surtout faire confiance au lecteur derrière. Quoi.
Alors là, je t'arrête parce que dans 4 minutes, il va falloir laisser
très bien,
la...
Je suis partie sur ma diatribe.
Ah oui, non, mais c'est vraiment très important. J'aimerais que tu reviennes. On n'a pas parlé de tout. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux libraires Allez, ça va être les cadeaux de fin d'année, de nouvel an.
Alors dans le livre, vous pourrez retrouver une liste de 25 incontournables et une liste qu'on a fait Nathan et moi, parce que la liste de 25 incontournables, on l'a fait avec tout un tas de professionnels du livre, et on a fait une liste aussi de 25 auteuristes qui feront le 21e siècle. Donc pour nous, c'était l'idée de mettre en avant des auteurs un peu plus jeunes ou alors moins connus, mais qui sont pour nous essentiels. Dans cela, je vous conseillerais de suivre le travail de Sarah Mack, avec notamment Veda Sanvache et Albin Michel, qui est une formidable roman d'apprentissage avec des drag kings dedans, enfin un vrai roman avec des thématiques très modernes, mais en même temps une vraie joie du roman d'apprentissage et de la romance. Et je vous conseille aussi, si vous préférez les littératures de l'imaginaire, d'aller voir le travail de Julia Thévenot qu'on a cité tout à l'heure, et notamment son roman Mille Pertuis chez Gallimard Jeunesse, qui réinvente la sorcière, et c'est...
Et tu parles aussi dans les deux tomes de Un trait de fusain de Cathy Itac. Moi, je suis la génération sida et c'est vraiment extrêmement important que ce massacre ne se renouvelle pas. Il va falloir laisser la place au Club Ferré. Et je te remercie vraiment de ton déplacement depuis Le Havre.
Depuis Le Havre, merci. Et puis, si vous voulez me rencontrer ou acheter le livre, vous pouvez venir au Salon du Livre de Montreuil la semaine prochaine. On aura ce tome 2, La nouvelle carte des 100 incontournables, le premier aussi. Et on dédicace plusieurs fois durant toute la semaine.
Et c'est au premier étage, en général?
C'est au premier étage, notre stand est sur le grand marché de la petite édition.
Voilà. Eh bien, merci. Et à bientôt, à la semaine prochaine au Salon du Livre de Montreuil, entre les métros Robespierre et Croix-de-Chavaux, pendant une semaine jusqu'au lundi qui est la journée des professionnels.
Oui, le lundi 1er décembre, voilà. C'est la fête de la littérature jeunesse.
Eh bien merci Tom.
Merci.
Et un tome 3 ou pas?
On verra après.
On verra après, allez, au revoir Anne-Sylvestre. Anne-Sylvestre, sa mémoire sera samedi à 16h à Publico, 145 rue Amelot, avec Agnès Bill. Au revoir.
Au revoir.
Laissez les enfants pleurer, ne tarissez pas leurs larmes. Elles lavent et le désarment ce qui les fait chavirer. Laissez les enfants verser ces ruisseaux qui les apaisent et s'en vont noyer les braises de leurs chagrins insensés. Laissez-les. Empêcher que l'on réprime cette rosée légitime. Ils ont des fleurs à arroser. Laissez les enfants pleurer avant qu'on les abîme. Laissez les enfants rêver, ne les cassez pas d'avance. Donnez-leur au moins la chance d'apprendre un jour à voler. Laissez les enfants choisir des chemins qui vous dépassent. N'effacez jamais leurs traces, vous les verrez revenir. Laissez-les. Ne souffrez pas qu'on dédaigne la lumière qui les baigne. Ils ont des richesses à donner. Laissez, laisser les enfants rêver avant qu'on les éteigne. Laissez les enfants grandir, ne renforcez pas les cages, ne craignez pas les orages, ni les torrents à franchir. Laissez les enfants gagner le droit d'étendre leurs ailes dans la lumière nouvelle d'une vie à inventer. Laissez-les. Ils vont s'envoler ensemble, un même ciel les rassemble, ils ont des sommets à gravir. Laissez les enfants grandir avant qu'ils nous ressemblent. Laissez-les.